Hello les amis, que ça fait plaisir de voir des messages comme ça, hein, de bon matin, juste quand je commençais à m'endormir au taf, tu tombes à pic, le tassu. Tu sais que ça fait très plaisir ça. Voilà. Puis de voir aussi des gens qui écrivent pour la première fois dans ce chat, dans cette communauté, ça fait bien plaisir. Est-ce que Samuel Etienne a déjà fait une revue de presse avec le Gorafi, me demande Mitsuhiko. Pas besoin. Pas besoin parce qu'en fait l'actualité IRL est en train de dépasser l'actu du Gorafi. Voilà. Tu prends Trump. Le Gorafi que j'adore, hein. Le Gorafi est incapable d'imaginer les dingueries que Trump peut faire, par exemple. T'as pas besoin de voir ce moment-là. Un jour, quand l'humanité s'apaisera un peu, on aura plaisir à relire le Gorafi. J'ai réussi à changer mon rythme de sommeil pour venir sur Twitch. Le direct, c'est quand même mieux, mais Nefki, mais ça fait trop plaisir. Attendez, je lis des petits messages feel good comme ça, ça fait. Ça me fait plaisir. Samuel, je m'appelle aussi Samuel, continue, on t'adore. Mais solidarité des Samuel. Le plus beau prénom du monde. Tu allais rebrancher la fibre du quartier. Comment Sugar sait-il qu'il n'y a pas de fibre dans le quartier depuis ce matin 8h? Merci le monde de Mathieu. Merci Jojo pour le soutien. Comment sais-tu, alors que j'allais en parler, comment sais-tu que dans mon quartier il n'y a pas de fibre? Attends, tu as accès à la caméra de mon studio? What? What? Mais attendez. Quoi? Attends, il me manque des éléments là. Comment ça la caméra de mon studio? Et comme par hasard, pas de nouvelles de Sugar. Attendez, expliquez-moi. Attendez, stop the count. J'ai entendu un barbu en parler sur ton stream. Ah, Joe est venu dans le chat? Oui, parce que alors je vous raconte tout. Donc ce matin, je lisais les journaux, voilà, le réveil sonne. On lit les journaux, tout va bien. Et au milieu, un peu après 8h de la lecture de L'Opinion, le quotidien, eh bien, subitement, je n'arrive pas à passer à la page d'après. Esprit cartésien, on fait les choses progressivement. Je sors de L'Opinion, je re-rentre dans L'Opinion. Dans le journal. Et rien. Pas d'opinion. Bug de L'Opinion. Eh ben, voilà. Contre mauvaise fortune, on fait bon cœur. Et je dis, ben, on n'aura pas d'opinion ce matin. Et j'enchaîne avec le journal suivant. Ce matin, j'ai changé en plus. D'habitude, je fais ça. D'habitude, je fais toujours dans le même ordre, je suis un peu maniaque. Le Monde, le Parisien, Libé, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. Et ce matin, le fou du bus. Complètement fou celui-là. À l'envers. Donc j'ai commencé par L'Équipe. Donc L'Équipe, Les Échos, L'Opinion. Et après, je passe à l'Huma, du coup. Hein. Et ça marchait pas non plus. Hey, Joe vient de nous raid, justement. Joe que je viens d'appeler. Je raconte mon histoire. Et je me dis, tiens donc, plus de journaux. Je check le débit internet, plus d'internet. Vous êtes au domicile d'un créateur de contenu, mesdames et messieurs, qui n'a plus internet. Ni une ni deux, je vais voir la box. Tu... Ah, ça lag? Ah bah oui, ça va. Puis ça va laguer, oui, puis ça va laguer toute la matinée. Hein. Ah bah ça va laguer, oui, c'est sûr. Ah bah oui, je suis pas en fibre. Ah oui, bah oui, si je suis en train de vous dire que j'ai pas la fibre. Ouais. Mais, attendez, ça lag, c'est pas possible de m'entendre correctement, auquel cas je coupe le stream et je vais dormir, ou c'est possible? Sinon, moi, j'ai du taf, je rentre chez moi. Vous me dites. Ah non, parce que je vous connais. Je vais passer 3 heures de stream à parler du lag et pas de l'actu. Non, je vais y aller. Non, je vous connais par cœur. Non, ça va parler du lag pendant 3 heures, ça va être épuisant. Tant pis, on va attendre. Et demain matin, il n'y aura peut-être pas de revue de presse non plus parce que la fibre va pas être réparée avant demain. Bon, bah écoutez, c'était court, mais c'était bon. Je connais Twitch quand même. Hein? Allez, bon, je vous dis à lundi, du coup, parce que demain, après, c'est le week-end. OK? Ah, c'est reparti. On a récupéré le live, on a récupéré le chat. C'est pas mal. Ouais. Vous êtes vraiment d'une patience inouïe. Hein. Vous êtes super gentil. Ouais. Mais on est peu de choses, vous voyez. Hein. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur un gros débit? Troisième stream de la journée. Oh my God, c'est le troisième stream de la journée. Cette chaîne a été piratée par un reporter de l'Assemblée. On va en parler, c'est dans le sommaire aujourd'hui. Allez, je vous mets le sommaire, vous l'avez bien mérité. Voilà, super. Ok. Avoir un gros débit, c'est tellement important, mais bien sûr. Ah, ben il est là d'ailleurs.
Monsieur le rapporteur, on parle de vous dans la presse ce matin. La stratégie de Samuel de cut le live pour qu'on ait les pubs de début en boucle. Ah, c'est pas con ça. Ok, je crois que vous avez vu clairement dans mon jeu. Comme la seule pub qu'on chope ici, c'est celle du début. Du coup, après ces problèmes techniques, j'avais rien. Tu n'as rien raté. Tu gagnes rien sur le pré-roll ? Ah bon, sur le pré-roll du début, sur la pub, je gagne rien ? C'est vraiment nul. C'est nul. Nul. Bon, mais c'est bien, ça me permet de tester aussi mon matos. Il y a une bonne nouvelle dans cette histoire. Je vais vous dire. Bon, d'abord, c'est que mon boîtier fonctionne. Bon, là, je vais au Maroc la semaine prochaine voir la famille. Mais là-bas, j'ai la fibre. Voilà. Donc, le boîtier, on s'en fiche un petit peu. Mais ça veut dire que mon boîtier RJ, mon câble RJ marche. Parce qu'un câble RJ, ça peut être taquin aussi. Un article sur À l'oncle dans les échos. Oui, c'est de celui dont je parle. C'est celui-ci qu'on va lire. Ah non, c'est dans le Figaro, attends. Dans les échos, t'as un truc ? Ah, j'ai pas vu ça. T'es sûr ? Dans la version PDF... Dans la version PDF des échos, il y a un article sur l'Assemblée. Attends, fais voir. C'est sûr de toi ? Des échos de ce matin ? Dans les échos ? Où ça ? Ok. Dans les échos ? Je l'ai raté, alors. Sur la commission ? Ou alors je me suis trompé ? Quelle page ? Quelle page ? Ah, hier ! Ah putain. Non mais on parle pas de l'actu d'hier ici. On va pas lire tous les articles sur le rapporteur. Ah non mais attendez, c'est une rue de presse d'actualité ici, c'est pas une rue de presse d'histoire, hein. Vous voulez pas qu'on fasse Marignan 1515 aussi ? Oh là 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 là, je suis déçu. T'as pas lu le papier sur Alloncle dans les échos ? Il y a un papier sur Alloncle dans les échos. Hier ? Non mais attendez, vous êtes où là ? Vous pensez que vous êtes où là ? Attends. Vous voulez qu'on parle de Jeanne d'Arc ? Vous voulez qu'on parle de quoi ? Les grottes, les peintures rupestres. C'est une chaîne d'actu ici. Hier, et quoi encore ? Non, soyez sérieux deux secondes. Non, il y a un papier qui est plutôt pas mal dans les échos. Oui, c'est des problèmes de ping, oui. Des gros problèmes de ping, oui. Donc, pourquoi je parle comme ça et pourquoi je fais le couillon ? C'est parce que je veux vérifier que c'est OK pour vous en termes de son et d'image, ce qui permet de lancer la revue de presse et qu'on ait un bon replay sur YouTube, un bon replay sur Twitch et un bon replay en podcast audio. J'ai l'impression que ça râle plus trop, voilà, et donc je pense qu'on peut y aller. Mais c'est OK pour vous ? Ça a l'air pas mal ? Ok, super. Merci de votre patience. Donc voilà, petite péripétie ce matin, pendant ma lecture des journaux, la fibre qui saute, petit message d'ailleurs d'Orange par SMS, en mode « Désolé, on a un problème dans votre quartier », mais genre quelques minutes après, ça c'est fort, « On a un problème dans votre quartier, rétablissement, a priori demain fin de matinée ». Voilà. Et donc j'ai continué avec la coup du téléphone, et puis là effectivement je stream avec un boîtier 4G, Orange, mais pas fibre bien sûr. Et du coup, peut-être que ça lag un petit peu. Ok ? Bon, bah merci d'être là. Sachant que demain il y aura une revue de presse bien sûr, dans ces conditions. Et puis que la semaine prochaine il y aura aussi une semaine de revue de presse, même si on est en vacances, je le disais, je vais voir la famille au Maroc, on emmène Pio voir ses grands-parents. Et j'emmène mon setup de voyage, le petit PC portable, les câbles qui vont bien, une petite caméra toute pourrite. Par contre, la table de mixage, c'est la même parce qu'il faut un bon son. Le micro, voilà. Donc on aura une revue de presse du lundi au vendredi. Première fois pour lui. Ah ouais, premier voyage. Premier voyage. Ses deux frères sont déjà sur place depuis une semaine. Une petite vacance avec la famille. Et Pio va découvrir déjà une grosse partie de la famille qu'il n'a pas vue encore. C'est pour ça qu'on y va. Hein. Et puis le Maroc, mais enfin bon, je crois qu'il voit au-delà de 20 cm, il voit pas très bien. Au-delà de 20 cm, il va pas très très bien. J'ai l'impression qu'il ouais, j'ai l'impression même qu'il voit pas grand-chose, même en dessous. Ouais. Il va découvrir l'avion. Oui, enfin, il va. C'est 20 cm au début. Ah ouais, c'est fou, ouais. Il n'a pas encore fait le focus, mais ça va venir. Ah oui, ça se voit hein, dans son regard. Hein. Il regarde jamais. Il te regarde jamais. Il regarde d'autres trucs qui. Salut, Doppio Boy. Comment ça, comme son papa? Comment ça, comme son papa? Ça va être le fameux bébé qui pleure tout le vol, tu penses? Non, Célina, personne ne va se plaindre parce que je vais leur casser la gueule. Donc il y a très peu de chances que des gens se plaignent pendant ce vol de 3h30, 3h40, parce que de toute façon, je vais aller voir les passagers un par un au début du vol. Hein, et je vais leur dire, très gentiment mais fermement, hein, les yeux dans les yeux, parce que moi je vois au-delà de 20 cm. Voilà, et je vais leur dire, ce vol va très bien se passer. Parce que si jamais vous vous plaignez, je viens vous péter les genoux. Voilà. Donc personne ne va se plaindre. Hein? C'est un enfant, c'est un bébé, ça peut pleurer, c'est tout. Voilà. Voilà, donc ça va très très bien se passer. Non, blague à part, bah non, non, c'est vrai. Alors, c'est tous les parents ont vécu ça. Quand tu rentres dans un wagon de train, ou pire, dans un avion, parce que dans le wagon de train, tu peux aller entre deux rames. Nous, on fait beaucoup ça. Hein, c'est pas parce que tu as un enfant que tu es obligé d'imposer les pleurs de l'enfant aux autres. Donc l'enfant, il pleure, il est pas bien. Bah, tu te lèves, tu vas marcher, tu vas essayer de l'apaiser, l'endormir, tu te mets entre deux rames, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut tolérer l'enfant dans la société, sinon c'est le début de la fin, hein, si on tolère plus les enfants dans la société. Et en même temps, il faut que les parents fassent attention que ça crée le minimum de nuisance par rapport aux autres. Hein, voilà. Chacun fait un effort. Donc en train, c'est assez easy. Un enfant, il est pas bien, il a mal au ventre, ou il a faim, ou il s'ennuie, que sais-je. Eh ben, on s'en occupe, on le gère, on se lève. Voilà, pour que bah, d'abord que lui ait moins mal, éventuellement on pense à autre chose, passe à autre chose, switch, et puis que les passagers soient pas importunés. Malgré tout, quand tu rentres dans un wagon avec un enfant en bas âge et un bébé, les regards se portent sur toi quand même. En mode ah non. Ah non. J'ai payé mon billet. J'ai le droit à 1 heure, 2 heures, 3 heures de calme. Je ne veux pas d'un bébé. Hein. Donc il y a ce regard-là en train, voilà. Voilà. Et en avion c'est pire, parce qu'en avion tu ne peux pas aller entre deux rames, parce qu'il n'y a pas de rame dans un avion. Voilà. Donc tu ne peux pas te lever et t'es, voilà, voilà. Et en plus tu peux pas te lever parfois, parce que dans certaines phases de vol, décollage, atterrissage et turbulence, tu ne peux pas te lever, tu ne peux même pas te lever. Voilà. Voilà. Donc là, effectivement, quand tu rentres dans l'avion, t'as quelques regards qui se lèvent vers toi. C'est ceux-là que je vais voir, moi. Je veux dire, voilà. Je vais les voir gentiment, parce qu'il faut mettre de la douceur aussi dans ce monde. Il faut mettre il faut mettre de l'huile, voilà. Et je vais voir les gens un peu inquiets. Je vois l'inquiétude dans le regard. Et je vais les voir. Je me penche vers eux et je leur susurre à l'oreille, ce vol va bien se passer. Et si tu oses venir te plaindre, si je t'entends ne serait-ce qu'une fois, je viens te péter la gueule. Voilà. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Voilà. Il faut savoir communiquer, il faut savoir échanger, il faut savoir parler avec les gens. Donc ce vol va très bien se passer. Pour ceux qui veulent l'éviter, je prends l'avion samedi pour le Maroc. Tu réactes trop frontière, ça dépeint sur toi. Voilà. Et je me mets torse nu, exactement. Je me mets torse nu, voilà, pour impressionner avec mon petit bedou, là. Et je me mets de l'huile. Je me mets de l'huile, tu vois. Voilà. Et je me mets au milieu du couloir. Tu as raison, je vais faire ça, tiens. Exactement. J'ai une strat qui est en train de se mettre en place grâce à vous. Hein. J'enlève mon t-shirt, j'enlève mon sweat. Je me mets torse nu, je me mets de l'huile. Je me mets de. Avec un slip de sumo. Exactement. Je me mets de l'huile. Voilà. Et je dis. Et maintenant? Et maintenant? Qui va se plaindre de ce bébé? Voilà. Imagine, et là tu as 200 téléphones portables, 200 téléphones qui se en mode vidéo, en train de te filmer, et l'avion n'a pas encore décollé. Tout ça part sur les réseaux instant. Voilà. Waouh. Le TikTok de Anne, exactement. Non, parce que j'arrive à me contrôler quand même. Et là, oh joli. Alors chacun imagine la fin du scénario parce que c'est sans fin. Et là, t'as un vrai sumo qui se lève dans l'avion, voilà, avec son gros slip de sumo, et qui te dit, et là alors, ah ouais. Et là, bah battle, je jette du riz, je fais le truc, je tape des pieds comme ça, paf, paf, paf. Voilà. Oh, non, mais blague à part, voilà, je mets, alors si je veux vraiment vous dire le fond de ma pensée, c'est voilà, désolé. Après, nous on va tout faire avec Hélène pour que Pio soit bien. Donc on va évidemment lui changer sa couche juste avant. On va calculer par rapport au biberon tout ça. Parce que le biberon a tendance à l'endormir, bien sûr, la digestion, de le mettre juste avant le vol, tout un timing, quoi. Voilà. Après, quand il est contre Hélène, c'est ça, c'est déjà, c'est, voilà. On a le droit, d'ailleurs. Il faudra voir si, en termes de sécurité, il ne nous demande pas de le mettre dans le truc, là. S'il nous demande de le mettre à plat dans un berceau, là, c'est terminé, là. Finito, là. Là, il va hurler pendant 4 heures. Faut que je vois ça. Au pire, un Lexomil. Waouh! Voilà. Mais en tout cas, on va tout faire pour que ça se passe bien pour lui, d'abord. Puis en plus, il peut y avoir des petites douleurs d'oreilles, hein, pour lui. Et voilà, faut donner le biberon au décollage, comme ça, il a pas mal aux oreilles. Ouais, ou la tétine, exactement. Donc, on va tout faire pour que ça se passe bien pour lui et pour les passagers. Et attendez, ça, c'est l'aller. Mais au retour, j'ai les deux autres. On sera 5. Famille nombreuse. Il n'y a pas réduction famille nombreuse dans les avions, d'ailleurs. Il n'y a que dans le train. Vie ma vie, quoi. Ah, en avion, le bébé est forcément tenu par un parent. Le personnel peut expliquer comment s'attacher. Ouais, super, 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 ok. Décollage, atterrissage et des petits pleurs en général, ouais. Voilà. Vous ne pouvez pas privatiser l'avion, mais t'as cru quoi, défécateur? T'as cru que j'étais créateur de contenu, que j'étais influenceur ou quoi? Tu crois quoi? Salut, monsieur Zelda, merci pour ton message. Décollage, turbulence et atterrissage, il faut le mettre dans le berceau, mais sinon tu es libre de te promener avec dans l'avion et de le prendre contre toi. Ok. Ok. Prends ton jet en vrai. Mais attendez, vous m'avez pris pour Squeezie ou quoi? Ça va pas, non? Ici, c'est artisanal, ici. Hein. Oh, la fille de ma grande sœur s'appelle Pia. Est-ce qu'on pourra organiser un date plus tard? J'adore. Attends, elle est pas trop grande parce que... Sinon, ça fait un peu cougar. Hein. Le mien, il a 7 semaines. Hein. Si Bouillou, le pire, c'est quand t'atterris pour les petits, je sais jamais comment faire pour leurs oreilles. Bah, en vrai, tétine, toi. Tétine pour les petits ou biberon, et puis sucette pour les grands. Pio a déjà plus de buzz que moi avec les femmes, me dit Sugar. Oh, chouk. Il y a des gâteaux vietnamiens qui s'appellent Pia aussi. Ah bah surtout, il y a Pia Zadora, surtout. Attendez, on s'arrête. On arrête tout. Il y a Pia Zadora. Attends. Pia Zadora, l'histoire est géniale. Duo avec Jermaine Jackson. Hein? Ah, là, les plus jeunes, vous savez pas ce qui arrive, là. Vous ne savez pas ce qui arrive là. Et là, vous n'êtes pas prêts. Les plus jeunes. And the rain begins to fall. Cravenius. Les plus jeunes, vous ne savez tellement pas ce qui arrive. When the rain begins to fall. Là. Les anciens savent ce qui arrive. un duo avec Pia Zadora. En gros, la petite histoire, c'était une chanteuse dont le plus grand talent, disent les mauvaises langues, était que son mari était producteur ou enfin très riche, je sais pas quoi. Et donc il y a eu un duo avec Jermaine Jackson. Voilà. Et les vieux savent. Les jeunes, vous ne savez pas. Je vais vous montrer ce duo Pia Zadora. Jermaine Jackson, qui est donc un des frères de Michael Jackson, When the Rain Begins to Fall. Attention, je vous mets ça, vous n'êtes pas prêts. Il y a une reprise dans le Morning Live ? Il y a une reprise dans le Morning Live ? Sérieux ? Même le clip ! Le clip ! Attendez, c'est pas que la chanson, c'est tout. Les 80, on va aller vérifier tout de suite d'ailleurs. N'abusons pas des bonnes choses, je vous coupe le morceau, mais on va aller voir qui était Pia Zadora, donc. Et donc, il y avait une histoire de... C'était un peu son mari qui était producteur, je sais pas quoi. Pia Zadora. Elle est toujours vivante, déjà. Ok. Archange, par contre, Samuel a oublié qu'il avait une revue de presse à faire. Non, t'inquiète, on est cool ce matin. Oh, Nencha, je sors du leurre pour dire que ma fille d'un an te regarde, Samuel. Elle te dit coucou de la main. Oh, comment elle s'appelle petite fille de Nencha. D'un an. Attends, je me mets en gros. Coucou. Comment elle s'appelle ? On te fait un grand coucou. Alors, Pia Zadora. Son nom d'internet, c'est Josiane. J'adore. Coucou, Josiane. Pia Zadora. Ah, elle a changé. Alors, Pia Zadora. Alors, de son vrai nom, Pia Alfreda. Chez Pani, donc elle est née en 54, elle a 71 ans désormais, à Hoboken, c'est aux États-Unis, d'un violoniste d'origine italienne. Oui, c'est son mari, j'ai dit son père, non, c'est son mari. Sa maman s'appelait Saturnina Zadorowski. Saturnina, c'est incroyable. Et on dit aujourd'hui, ouais, avant il y avait des prénoms classiques et tout. Et maintenant on fait ce qu'on veut. Putain, il y avait une dame qui s'appelait Saturnina, quoi. Okay. Elle débute au cinéma à 10 ans en interprétant Grimard, une jeune martienne, dans Le Père Noël contre les Martiens, mesdames et messieurs. Un film pour enfants qui apparaît dans tous les classements des pires films jamais tournés. En 82, elle apparaît dans... Donc 82, elle a quel âge 20, 64, 25 ans, par 25, 26 ans. Elle apparaît dans Fake Out, puis Butterfly, film sans grand succès, mais qui vaudra tout de même à Pia Zadora le Golden Globe de la meilleure actrice débutante, ainsi que le Razzie Award de la pire actrice débutante. Voilà. La même année, elle sort un premier album, intitulé Pia, tout simplement, Pia. Succès mondial avec When the Rains Begins to Fall, qu'on vient d'écouter, son duo avec Jermaine Jackson. Voilà. Et l'histoire, vaguement, mais là, ils n'en parlent pas, c'est que son mari, c'est un peu grâce à son mari, un peu tout ça, la carrière. Voilà. Voilà. Le problème, me dit Cyril, c'est qu'elle est toujours restée une actrice débutante. C'est pas très gentil, ça. Artiste à la carrière en Dancy, ça on peut dire. Elle a obtenu un grand nombre de contre-récompenses, 5 Razzie Awards, donc c'est les awards, mais des bids, tout ça, dont une nomination à celui de la pire artiste du siècle. Elle a été nommée pour être distinguée, elle ne l'a pas été, pour être pire artiste du siècle. Et un Golden Apple, le Soar Apple Award, dans la catégorie de l'artiste qui croit le plus ce que racontent ses propres publicités. Au nom de Dieu! Ah. Ok. Voilà. Allez. On prend le temps. Madame Guesmer me dit, il est vrai que la version de Michael Youn et Vincent de Zagna est juste hilarante, cette chanson. Attends, il y a une version Morning Live ? Alors, attends. Mort. Que je ne connais pas. Morning Live. When Je l'ai. Vous êtes sûr que c'est bien? Je me méfie. Hein. Je suis pas sûr, moi. Vous m'inquiétez. Hein. Vous m'inquiétez avec ce truc-là. Mais bon, je l'ai.
Bien.
Je l'ai, je l'ai. Je l'ai, je suis très peur. J'ai très peur de ce qu'on va découvrir.
Alors, souvenez-vous, c'était Biazadora et Jermaine Jackson.
Ah, moi, j'avais la... C'est là où on voit que vous êtes jeune, parce que vous, vous aviez cette rêve-là, et moi, j'avais la rêve d'avant. J'avais pas vu la... Comment on dit la... La parodie. Je ne connaissais que le clip originel. Très, très cringe comme humour. L'humour, l'humour, d'une manière générale, vieillit mal. Comme tout, d'ailleurs. Donc, il ne faut pas juger l'humour des générations précédentes. Vous savez pourquoi il ne faut pas juger l'humour des générations précédentes? Parce que, un, l'humour vieillit mal. Deux, dans 10 ans, dans 20 ans, sinon dans 10 ans, les générations futures se moqueront de l'humour d'aujourd'hui. Et se moqueront de vous aussi. Voilà. Donc, non. Non, l'humour, c'est daté. Point. Aujourd'hui, tu réécoutes Fernand Reynaud. Moi, j'étais fan de Fernand Reynaud. Bon, c'est un grand humoriste. Le 22 Asnières, Tonton, pourquoi tu tousses? Et ben en fait, bah c'est un peu vieilli quand même. Et même Coluche, qui a été immense, qui a été incroyable, qui a révolutionné l'humour. Vous connaissez pas Fernand Reynaud? Oh, Fernand Reynaud. Mais Coluche, c'est pareil. Vous réécoutez Coluche aujourd'hui, c'est pas si fou. C'est pas si fou qu'à l'époque. Ouais. Voilà. En fait, ça n'a pas de sens de juger. L'humour. La musique, ça vieillit moins. Fliou a raison. Pourquoi tu tousses? Ah, faut que je vous fasse écouter Fernand Reynaud. Ça n'a pas vieilli, Fernand Reynaud? Ah si. C'est les vieux qui disent ça. Ah si, Fernand Reynaud, c'est parti. M'en fous de la revue de presse, m'en fous de l'actu, moi, on est là pour rigoler. Fernand Reynaud. Dis donc, pourquoi tu tousses? Alors, Fernand, comment s'écrit Fernand Reynaud? Ça ne s'écrit pas comme ça. Tes proches, ça n'a pas vieilli? Bien sûr que si. Ah, puis je suis sur Twitch, je suis débile, je suis sur Twitch. Je cherche Fernand Reynaud sur Twitch. C'est bizarre, je dis, oh, c'est bizarre, je trouve pas. Mais qu'il est con. Fernand Reynaud, voilà. Ah, il y avait l'eau ferrée jugineuse aussi, ouais. Ah oui, oh! Ah si, il y en a une qui n'a pas vieilli. Ah si, il y en a une que je vais vous faire écouter. Une qui... Il y a une qui résonne un peu dans l'actualité. Le douanier. Le douanier de Fernand Reynaud. Et là, je ne sais pas si ça a tant vieilli que ça. Je vous fais écouter pour ceux qui ne connaissent pas les plus jeunes. Le douanier. Le douanier qui n'aime pas les étrangers.
Je ne suis pas un imbécile, moi.
Je suis douanier.
J'aime pas les étrangers. Ce qui vient de manger le pain des Français. Ouais. C'est curieux comme profession. Je suis douanier, puis j'aime pas les étrangers. Quand je vois un étranger qui arrive, puis qui mange du pain, je dis ça, c'est mon pain. Puisque je suis français et puis il mange du pain français, donc c'est mon pain à moi. J'aime pas les étrangers. Parce que moi je suis français. Et je suis fier d'être français. Mon nom à moi, c'est Kulak Yastensky. Du côté de ma mère. Et Piazzano. Vanditti. Du côté d'un copain à mon père.
C'est
pour vous dire si je suis français. J'aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français. Dans le village où on habite, on a un étranger. Alors quand on le voit passer, on dit tiens ça là. On le montre du doigt ça, comme un objet, un étranger. Il vient manger le pain des Français. quand sa femme passe, la tête basse, avec ses petits-enfants qui baissent la tête. Oui, ça, ça, là, c'est des étrangers. Il aime bouffer le panier français. L'autre dimanche, dans mon village, j'avais été, c'était à la sortie de la messe de 10 heures, j'avais été communié au café d'en face. Il y a l'étranger qui a voulu me parler. Moi, j'avais autre chose à faire, penser, parler avec un étranger. J'avais mon tiercé à préparer. Enfin, du haut de ma grandeur, j'ai daigné l'écouter. Il m'a dit, ne pensez-vous pas qu'en notre époque, 1972, c'est un peu ridicule de traiter certaines personnes d'étrangères. Nous sommes tous égaux. Voilà ce que j'avais sur le cœur. Je voulais vous dire ça, monsieur le douanier. Vous qui êtes fonctionnaire et très important, vous qui avez le bouclier de la loi. Nous sommes tous égaux. On peut vous le prouver. Quand un chirurgien opère un cœur humain, que ce soit au Cap, à Genève, à Washington, à Moscou, à Pékin, il s'y prend de la même manière. Nous sommes tous égaux. Oh, andouille, venir me déranger pour dire des inepties pareilles. Il a poursuivi, ils sont tellement bêtes, ces étrangers. Il vient de manger le pain des Français. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez une race où une mère aime davantage ou moins bien son enfant qu'une autre race? Là, j'ai rien compris à ce qu'il voulait vous dire. J'en ai conclu qu'il était bête. En effet, lorsque quelqu'un s'exprime et que l'on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il est bête. Et moi, je peux pas être bête. Je suis douanier. Va-t'en, étranger, il m'a répondu, j'en ai ras-le-bol. Chaque race a sa noblesse. Il a pris sa femme, sa valise, ses enfants. Ils sont montés sur un bateau. Ils ont été loin, au-delà des mers. Loin. Et depuis ce jour-là, dans notre village, on mange plus de pain. Il était boulanger.
Je retire ce que j'ai dit. J'ai dit que l'humour vieillissait mal. Ce... Attendez, il est de quand ce sketch? Fernand Reynaud. C'est incroyable. 72? Ah oui, il dit 72 à un moment. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Alors, est-ce que le clip il est pas un peu plus... Il est mort en 73. Donc peut-être que l'enregistrement date de 72. Peut-être que le sketch est un peu plus ancien. Je pense qu'il y a une grosse page wiki. Le douanier. Ils en parlent, le douanier. Le douanier. Toujours ancré dans son époque, il a régulièrement abordé les thèmes liés aux 30 glorieuses qui font encore écho aujourd'hui, la prévention routière, le développement de l'automobile, le douanier raciste et les travailleurs immigrés, le patron qui exige qu'on dise « je m'amuse », le paysan Crésus et le passage de la paysannerie à l'agriculture intensive. C'était étonnant. Voilà. Et là, il y a tous ces sketchs. Voilà. C'est fou, hein. Voilà. Donc je retire. Il y a quand même, des formes d'humour qui ne vieillissent pas, quoi. Incroyable, hein. C'est fou, hein. Attends ça, mais il y a une super version Morning Live du douanier. Non, vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas, on va partir sur la revue de presse, qui démarre très tard ce matin, mais c'était cool de faire ce petit pas de côté. L'humour ne vieillit pas forcément, tu as raison. J'ai 20 ans et Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton me font mourir de rire alors que j'ai 21 ans. C'est vrai. En fait, tous les humains ne vieillissent pas si, de la même manière. Incroyable. Ah non, rien à voir, non. Même j'ai dit, mais c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'avais une petite question. Tu avais annoncé qu'il allait y avoir une bonne nouvelle te concernant rapport à la télé. Peut-être, j'ai dit peut-être. Avec l'annonce de l'arrivée de Cyril Ferraud à Fort Boyard et de son départ de Duel en famille, je me demande si c'était pas lié à cela. Ah non, t'as vraiment rien à voir. Rien, mais rien. rien, rien. Ah non, mais c'est vraiment pas dans cette direction-là. Ouais, mais c'est gentil d'y avoir pensé en vrai. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse? On y va? Au moins, vous savez de quoi on va parler ce matin, parce que vous avez le sommaire. On y go? C'est parti. Et pardon pour le délai ce matin. Et là va commencer la revue de presse pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, parce que je rappelle que sur les podcasts audio, ils n'ont pas l'intro. C'est parti. Fermé. Et c'est parti. Voilà. 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. On est le jeudi 23 avril 2026. La revue de presse sur Twitch, c'est depuis 5 ans. On commence tout de suite avec le sommaire. Alors, ceux qui nous écoutent en replay, notamment en podcast audio, vous n'avez pas eu l'intro. Vous avez échappé à beaucoup de choses. Un sketch de Fernand Reynaud sur le douanier raciste incroyable. Un clip et une chanson formidable de Piazzadora et Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. Vous avez aussi raté la parodie de ce même titre au Morning Live et différents problèmes de connexion et de fibre et de débit, mais tout ça est réglé. Donc on y est, merci d'être là, que vous soyez en live sur Twitch, en replay sur YouTube ou en podcast audio. Voici l'actu dont on va parler ce matin. Alors, j'ouvre mes petits articles. Évidemment qu'on va commencer par l'Iran parce que il s'agit de savoir ce qui va se passer là-bas. Alors, où on en est de l'Iran? Ah bah évidemment, avec toutes ces bêtises, elle revient petite. Elle va revenir. Alors, ça n'est rien. Comme on a redémarré 10 fois le PC et qu'on avait des petits soucis de co, voilà, c'est revenu. Où on en est du conflit? Bah, nulle part, on verra ça. Ça n'avance pas beaucoup. Vers un enlisement du conflit entre l'Iran et les États-Unis. C'est un article dans Les Échos ce matin assez court qui nous dit où on en est. Des discussions, des négociations. Voilà, des tensions, de la reprise éventuelle du conflit, avec ces mots, le bras de fer reste concentré sur le détroit d'Ormuz, poumon économique du Golfe, mais aussi de l'Iran. On fera le point avec les échos sur le conflit, qui est toujours aussi nébuleux. Hier, on en a parlé, parce qu'on venait de l'apprendre. Effectivement, il y a un deuxième Français qui vient de mourir, qui était engagé au Liban, casque bleu, hein, dans la FINUL, la force de paix, au Liban. Il y a un premier qui a été tué par des tirs. La France notamment accuse le Hezbollah d'être à l'origine des tirs. Et il y avait 3 autres soldats, 2 ou 3, les sources sont un petit peu imprécises, qui avaient été blessés lors de cette attaque contre les casques bleus. Et il y a un deuxième qui vient de mourir, de décéder. Voilà. Marie-Lyon vient d'écrire « Qui vit par l'épée meurt par l'épée ». Donc nous avons un soldat français qui vient de payer de sa vie son engagement dans une force de paix qui s'appelle les casques bleus de l'ONU. Voilà. Et tu viens écrire dans ce chat « qui vit par l'épée meurt par l'épée ». Sinon, tu peux aussi utiliser ton cerveau et faire un effort et te rendre compte de l'énormité de ce que tu viens d'écrire ici. Élève ton niveau de jeu, je pense que tu peux le faire. Donc on rendra hommage à ce soldat. Autre actualité, un dossier très très fort dans le Parisien. Voilà. Plainte pour traite d'êtres humains. Voilà. Livraison à domicile. On parle dans le Parisien de se livrer à domicile, leurs conditions de travail. Alors nous, c'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a des études qui sont sorties récemment sur le profil de ces livreurs. Hein. Les plateformes disent que c'est des jobs, complémentaires, et que, en gros, tout le monde peut devenir livreur. Alors que les enquêtes, notamment une enquête très poussée récemment sur le sujet en France, montrent que c'est des gens qui font ça à plein temps, avec des salaires misérables, et pour la plupart sont étrangers, et la plupart peut-être aussi étrangers en situation irrégulière. Donc, suite de cette actualité, 4 associations de coursiers viennent de porter plainte et d'engager des poursuites auprès du parquet de Paris contre ces plateformes Uber, Eats et Deliveroo, les géants du secteur, dénonçant des conditions de travail contraires à leur dignité. Voilà. Et cette plainte, elle est déposée à ce titre, plainte pour traite d'êtres humains. J'ai lu ce dossier du Parisien qui est vraiment extrêmement bien fait et qui est extrêmement intéressant. Je vais vite, on est dans le sommaire.
Alors ça, j'ai hésité à vous le proposer tellement le thème est lourd. C'est dans Libération. Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai fait une très longue introduction tout à l'heure pour changer un petit peu les idées, parce que les thèmes de l'actu sont très très lourds. Moi, donc j'apprends par ce dossier de Libé que en France, depuis 2019, il y a une ligne téléphonique qui existe pour que les personnes sexuellement attirées par les enfants puissent appeler pour être mises en relation avec des professionnels de santé avant d'être orientées vers des soins adaptés. Hein. En 2025, la ligne a reçu plus de 4000 appels. Voilà. C'est une ligne téléphonique, résume Libération dans ce titre, pour éviter le passage à l'acte. Donc on lira ce dossier, cette double page dans Libération pour comprendre ce qu'est cette ligne, ce qu'elle propose. C'est assez étonnant parce que ben les viols, les violences sexuelles sur les enfants, la pédophilie, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans l'actualité, souvent dans les pages judiciaires. Et là, en fait, cet article se penche plutôt sur... c'est ça qui va peut-être vous surprendre slash vous choquer sur la parole de ces personnes, alors qui sont pour le coup pas forcément des agresseurs, hein, vous l'avez compris, hein, mais qui appellent cette ligne pour dire que voilà, ils ont des pulsions et comment on peut les aider. Donc on va se pencher sur ça. Lavana me dit très bonne idée, ça fait des années qu'ils font ça en Belgique et ça a prouvé son efficacité. Alors c'est ce qui manque dans Libération. Il ne parle pas d'éventuels bilans dans d'autres pays étrangers, mais je trouvais ça extrêmement intéressant. Voilà. C'est la première fois que je vois un papier là-dessus. Alors, on va en reparler bientôt dans l'actualité. Dans quelques jours, jusqu'à le début de la semaine prochaine, les députés membres de la commission de l'Assemblée nationale sur le financement de la neutralité et l'indépendance du service public de l'audiovisuel public, sont en train de lire le rapport qu'a écrit le rapporteur, le député UDR, qui est le rapporteur, qui a été celui qui a posé l'essentiel des questions. Et en fait, donc ils ont jusqu'à lundi pour le lire. Donc déjà, il a été écrit, ce rapport. Ils ont jusqu'à lundi pour le lire, alors pour le consulter, parce que je crois qu'ils ne peuvent pas l'emmener chez eux, ils ne peuvent pas l'imprimer. Voilà, ils peuvent pas prendre ils peuvent prendre des notes stylo à la main, mais ils peuvent pas faire des photos. Enfin voilà, ils peuvent juste le consulter. Même le président s'est plaint de ne pas avoir eu de copie papier. Donc c'est un peu particulier. Donc ils peuvent le consulter et après ils le voteront, c'est-à-dire qu'ils voteront pour sa publication ou pas. Il y a un article sur le Figaro dans le Figaro là-dessus. Et puis, puisqu'on parle de France Télévisions, il y a une info assez étonnante dans les Échos. Quelqu'un dans le chat, tout à l'heure, Sugar, disait « c'est assez révolutionnaire pour France Télévisions ». Oui, oui. France Télévisions, qui a annoncé il y a quelques semaines une révolution en interne par rapport au numérique et le fait que de plus en plus de programmes allaient être, je le dis mal, hein, mais « numérique first », c'est-à-dire directement, dès qu'ils sortent, postés sur internet et notamment sur YouTube plutôt que d'être diffusé d'abord en ce qu'on appelle en linéaire en télévision, c'est-à-dire en télévision, eh bien à l'époque j'avais été un peu critique en disant ok, c'est bien beau les annonces, parce que je crois que la présidente de France Télévisions avait dit demain deux tiers des salariés de France Télévisions vont être en gros numérique first, vont bosser là-dessus, et j'avais été un peu sceptique et j'ai dit ok très bien, mais les annonces elles sont où? Eh bien en voici une annonce: France Télévisions noue une alliance stratégique avec YouTube. C'est une petite révolution en vrai, après il faut voir comment ça va se réaliser dans les faits, il ne faut pas que ce soit déceptif. Le groupe public franchit un cap en s'alliant à la plateforme pour diffuser ses contenus d'information, donc il y a une grosse partie des contenus de France Télévisions. Streaming first, exactement, c'est comme ça qu'ils disent, t'as raison. Voilà. Et donc il y a une grosse partie des contenus de France Télévisions qui vont être postés sur YouTube, mais instant. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la transformation numérique de France Télévisions. Ça pose plein de questions. Quelle va être la rémunération de France Télévisions par rapport à ça? Comment ils vont pouvoir se faire de l'argent? Parce que évidemment, il n'y a pas d'abonnement, bien sûr. Alors, est-ce que c'est la pub? On verra. Voilà. Donc, on va se pencher sur cette annonce parce que du coup, ça devient un peu concret. Et alors, j'ai besoin des lumières des spécialistes de cyclisme. Je ne sais pas comment se prononce le patronyme, le nom de famille de ce jeune coureur cycliste dont tout le monde parle, le français. Est-ce que c'est Paul Sexa ou Paul Sexas? Parce que comme je ne regarde pas la télé, J'écoute pas la radio. Je ne sais pas comment on se prononce. On dit As, As, Texas. Texas, voilà, Paul Texas. Alors, ça fait des semaines, sinon des mois, que je vois des articles sur ce jeune homme en disant tout le bien que les gens pensent de ce prodige du vélo. Et j'attendais un peu un article qui nous résume un petit peu sa vie, son œuvre. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore trouvé, ce bel article qui raconte tout depuis le début, mais il y a un article aujourd'hui dans le HuffPost, le Huffington Post, qui est assez intéressant, parce qu'il vient de gagner une course. Il vient de gagner, c'est quoi ? La Flèche Wallonne. Voilà. Pourquoi tu prends cet article sur le HuffPost alors que l'équipe en parle très bien ? Parce que j'ai pas aimé l'article de l'équipe. Voilà. En posant la question, je pense que tu as la réponse. Comme je lis tous les journaux, j'ai lu cet article de l'équipe qui est très bien écrit, qui est très... Il est plein de lyrisme, il est magnifique, tu sens qu'ils sont très heureux, mais ils racontent pas, comme l'équipe est un journal qui parle à un public assez pointu sur le sport, ils racontent pas Sexas, ils reviennent pas tellement en arrière sur son parcours, et en fait, moi je suis pas un spécialiste de sport, la plupart d'entre vous non plus, et c'est un super article pour les gens qui connaissent Sexas, je trouve, mais je trouve que c'est pas un super article pour les gens qui ne connaissent pas Sexas, voilà. Donc j'ai lu ce bel article dans l'équipe, mais je ne vous l'ai pas mis de côté. Par contre, je vous ai mis le HuffPost. C'est vrai, le HuffPost que j'aime bien lire maintenant, ouais, qui est pas mal. Ouais. Voilà pour le sommaire. Vous en pensez quoi ? Il y a des choses hein, quand même. Je vois, c'est à toi que ce choix revient de toute façon. Exactement, le Luberlu, c'est le principe d'une chaîne Twitch. Ma chaîne, mes choix. Si tu veux mettre l'équipe en avant, tu peux créer ta chaîne Twitch. C'est le principe. Après, les choix, ils sont bons, ils sont pas bons, hein, bien sûr. Ils sont bons, ça peut être... C'est très subjectif. Mais par définition, sur la chaîne d'un streamer, tu vas avoir les choix de ce streamer. C'est ce qui peut arriver. Oui, il y a beaucoup de choses ce matin. Ça relague un peu ? Ah, c'est possible. On n'est pas sur Fibre ce matin. On est sur Boîtier 4G. Est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse ? On y go ? Dès que j'ai votre feu vert, on y va. Qu'est-ce qu'on va mettre sur YouTube d'ailleurs ? Ce matin, pas l'Iran, il n'y a pas assez de choses. Pas de Trump aujourd'hui. Si, Iran, USA, il y a du Trump. La livraison à domicile peut-être en vrai. C'est pas mal ça. Peut-être, hein. Hein, on fait ça ? Non, bon, c'est quoi ? Ça peut être pas mal. C'est pas un sujet dont les médias parlent énormément, quoi. On fait ça ? Ok, go. Allez, go. C'est parti. Premier sujet. Premier sujet, l'Iran. Alors, où on en est de l'Iran ? Ah, bah, nulle part, ça bouge pas, mais c'est ça l'info. La guerre en Iran, hop, je vous montre ça. C'est l'article ici dans les échos. Alors, des articles sur l'Iran, il y en a plein ce matin. C'est celui le plus clair que j'ai trouvé sur la situation parce que, pour le coup, elle est assez floue. Que nous disent les échos ce matin ? Vers un enlisement du conflit entre l'Iran et les États-Unis. Je trouve que ce titre est intéressant. Est-ce que c'est ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir enlisement de ce conflit ? Est-ce que dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois, on en est toujours là, avec une espèce de cessez-le-feu maintenu, un détroit d'Hormuz toujours plus ou moins bloqué, et bon an mal an, une économie mondiale qui s'est adaptée à ça, qui fait passer le pétrole autrement, enfin, etc. Question. Vers un enlisement du conflit entre l'Iran et les États-Unis, le bras de fer reste concentré sur le détroit d'Hormuz, poumon économique du Golfe, mais aussi de l'Iran, écrivent les échos ce matin. Les ultimatums de Trump donnent le tournis, écrit Anne Bauer. Aux Iraniens, aux médiateurs pakistanais, puisque l'Islamabad de Pakistan essaie d'être le facilitateur de paix dans ce conflit. Sur fond de double blocus de l'Iran et des États-Unis dans l'étroit d'Ormuz. Vous savez que l'Iran, comme les États-Unis, bloque désormais l'étroit d'Ormuz. Le président américain qui menaçait à l'Iran de frapper toutes ses centrales électriques et tous ses ponts s'il ne négociait pas un accord d'ici le 22 avril à minuit, or nous sommes le 23 avril, a opté une nouvelle fois pour la prolongation de la trêve. Ben Dadko nous dit, j'ai lu sur Le Monde que Trump demande, est-ce que les bateaux s'éloignent des côtes de l'Iran en assaut préparatif. Bon, ça, il y a des infos un petit peu là-dessus. Ce matin, on n'en sait pas beaucoup plus. Et Archimiste me dit, j'ai vu une news sans doute fake selon laquelle Trump aurait voulu appuyer sur le bouton nucléaire, mais aurait été dissuadé par son chef d'état-major des armées. Il y a une source, c'est un ancien responsable américain, je ne l'ai plus en tête. Il y a un ancien responsable, quelqu'un qui n'est plus en poste, mais il y a un ancien responsable américain qui a lâché ça, effectivement. Et notamment que Trump n'est... dans l'info qu'il avait donnée, lui, c'est que Trump, désormais, ne participait plus à certaines réunions. Ne participait plus à certaines réunions importantes en raison de la crainte des décisions qu'il pourrait prendre. Voire même qu'il aurait été sorti d'une réunion. Voilà. Bon, j'ai pas trouvé d'article carré là-dessus, mais je trouve ça passionnant. Dès que j'en trouve un, évidemment, je vous le partagerai. Est-ce qu'il a vraiment voulu utiliser l'arme nucléaire? Est-ce qu'il est vraiment mis de côté au sein même de la Maison-Blanche de réunions essentielles? Les deux questions sont essentielles. Dès que je trouve des actus carrés, sourcés, là-dessus, je vous les lirai. Ça n'est pas le cas, je n'en ai pas vu pour l'instant. Voilà. Au-delà de la rumeur et d'infos un peu floues. Continuons. En tout cas, ce sont des infos importantes. Donc, prolongation de la trêve, hein, puisque normalement, 22 avril minuit, Trump devait décider de relancer l'offensive. Et trêve sans nouvelle date ultime, mais pour une durée indéterminée. Trump a déclaré mardi que les États-Unis allaient s'abstenir d'attaquer l'Iran jusqu'à ce que Téhéran présente une proposition unifiée. Bon, ça peut durer très longtemps. Et que les négociations soient terminées d'une manière ou d'une autre. Le Pakistan, pays médiateur des négociations entre les deux pays, a plaidé pour cette prolongation. Voilà où on en est. Le conflit entre dans une zone de grand flou diplomatique, militaire. Le deuxième round de négociations entre l'Iran et les États-Unis n'a pas démarré. Vous savez qu'il y a eu un premier round de négociations de 22 heures il y a 15 jours qui n'a rien donné, avec deux camps qui campent sur leur position. Elles devaient reprendre là, les négociations. Elles n'ont pas repris, notamment parce que les Iraniens n'ont pas envoyé de représentants. Et le vice-président américain, Jed Evans, qui était limite sur... qui attendait sur le tarmac de décoller depuis les États-Unis pour rejoindre Islamabad pour y participer, a annulé son voyage parce qu'il a appris qu'il n'y avait pas d'interlocuteur iranien qui venait à la réunion. Tendu, difficile de discuter de paix quand il n'y a personne en face. Les discussions doivent reprendre mardi à Islamabad, mais l'Iran tente de conditionner, donc mardi, je suppose mardi prochain, tente de conditionner la reprise de ces discussions à la levée du blocus naval américain. Et Trump veut bien la trêve, mais garde évidemment le blocus. Voilà. La stratégie américaine semble donc s'orienter vers une accalmie militaire. Pour se concentrer, ce serait le pari de Trump actuellement, sur l'asphyxie financière de l'Iran, économique et financière. Si le pays ne peut exporter son pétrole par le détroit d'Ormuz, le manque à gagner représenterait énormément d'argent pour l'Iran, plusieurs centaines de millions de dollars par jour. C'est marrant parce qu'à un moment, on a dit que ça, c'était la stratégie de l'Iran. Que le conflit dure le plus longtemps possible pour que le coût économique pour les pays de la région, les pays du Golfe, pour les États-Unis, pour l'économie mondiale, en raison notamment de la difficulté d'acheminement du pétrole, mais d'autres produits aussi dans la région, est un coût tellement important que tout ce beau monde allait faire pression sur Trump pour que cesse le conflit. Aujourd'hui, on nous dit que celui qui veut que ça dure, c'est Trump, parce qu'il pense que le coût économique et financier pour le régime iranien va être tel à un moment que c'est Téhéran qui va céder. Voilà où on en est à peu près. Les recettes pétrolières représentent plus de 70% du budget iranien. Les experts estiment que les ventes annuelles de pétrole brut entre 30 et 40 milliards de dollars par an. La trêve a au moins le mérite d'apporter une respiration à la population. Là, on parle de la population iranienne. Les aéroports principaux ont rouvert, tandis qu'à Téhéran, les habitants semblent profiter du répit pour reprendre leurs activités. Pour les rassurer, le pouvoir iranien assure que le blocus naval américain n'aura aucun impact sur l'approvisionnement du pays en biens de première nécessité, ce qui est sans doute exact au vu des nombreuses frontières partagées, des multiples possibilités de transport routier, mais encore faut-il que l'État puisse continuer à vendre son pétrole. C'est un siège des deux côtés finalement. Alpha 18 a raison. Il y a un peu ça, ouais. Il y a un côté siège des deux côtés actuellement. Il y a Néono qui me dit « Poutine se disait la même chose avec l'Ukraine et ça fait 4 ans que ça dure ». C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, même s'il est très très difficile d'imaginer ce qui va se passer, que peut-être que dans 15 jours, 1 mois, 6 mois, 2 ans, peut-être qu'on en sera au même point. Voilà. Mais ça, ça aurait eu des conséquences sur la croissance économique mondiale, a priori. Dans l'immédiat, tout semble indiquer, écrivent les Échos, que le conflit va s'enliser. Mercredi, le blocage du détroit d'Ormuz se poursuivait, donc ça c'était hier. Les gardiens de la révolution iranien ont ainsi affirmé avoir intercepté 2 navires en infraction qui tentaient de passer le détroit. Il ne faut pas sous-estimer les ressources et la richesse du pays qui sont concentrées dans les mains du pouvoir, lequel s'est entraîné depuis des décennies à contourner les sanctions avec du commerce illicite, du troc, l'utilisation des routes de la mer Caspienne, etc. C'est ce que rappelle un chercheur qui s'appelle Clément Terme. Et de fait, depuis le début de la guerre, l'Iran a réussi à continuer à exporter son pétrole. Quelqu'un dans le chat parlait de... Je trouvais que c'était assez juste d'ailleurs. Un siège des deux côtés. Voilà, et quelqu'un m'a dit à l'instant aussi une guerre d'usure. Je trouve ça assez juste. L'Iran et les États-Unis vont donc s'installer dans un drôle de blocus. D'un côté, Trump a tendance à surévaluer les faiblesses des Iraniens, et de l'autre, les Iraniens souhaitent jouer la montre en estimant que le président américain sera vite coincé par les élections de mi-mandat qui arrivent, les élections de mid-term, et le prix trop élevé du gallon d'essence, et ça, l'Américain, il n'aime pas payer son essence très cher. Or, le prix à la pompe a augmenté. Les discussions semblent mieux parties sur l'autre front de la guerre entre Israël et le Liban. Sur le terrain, le cessez-le-feu est toujours très fragile. Voilà. Et Paris, et on va rendre hommage à ce soldat dans un instant, et Paris a annoncé qu'un deuxième militaire de la FINUL, le caporal-chef Anicet Girardin, était décédé des suites de sa blessure dans la même embuscade qui avait coûté la vie samedi à l'adjudant Florian Montorio. Nous avions rendu hommage à ce militaire Florian Montorio, mort en casque bleu français de la FINUL au Liban, au sud du Liban. Et je vais vous proposer dans un instant de rendre hommage également à ce deuxième soldat français mort, le caporal chef Anicet Girardin. Sur le plan diplomatique, les discussions entre Israël et le Liban reprennent aux États-Unis et les possibilités d'un compromis semblent se dessiner. Le Liban va demander une extension d'un mois de la trêve tandis qu'Israël propose au Liban de déployer des efforts conjoints pour lutter contre le Hezbollah. Ça, c'est curieux ça. Parce qu'en fait, un des problèmes de l'équation, c'est le gouvernement libanais, ça fait très longtemps qu'il dit qu'il veut mettre fin au Hezbollah pro-iranien, désarmer le Hezbollah, mais il n'en a pas les moyens. Et là, j'apprends qu'Israël propose au Liban de déployer des efforts conjoints pour lutter contre le Hezbollah. Bon, intéressant, on va voir ce qui va se passer. Israël qui n'a eu de cesse de frapper le Liban. Hein. Bon, on va voir. Alors je vous lis. Salut Khan Sumli, bienvenue dans la commu. Merci Marvin. Marvin nous félicite pour le sommaire. Je n'y suis pour rien. Hein. Il a été développé par deux membres de la commu, Boubou et Wiyuki. Voilà. Et c'est un travail de fou. Et c'est un outil super qui a vraiment permis de rendre plus lisible cette revue de presse. Comme ça, vous savez de quoi on va parler. Vous savez de quoi on va parler. Vous savez de quoi on a parlé. Et dans le replay, vous pouvez retrouver très facilement un truc. Voilà. Bravo à tous les deux. Parce que c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait. Je voudrais qu'on rende hommage maintenant à ce soldat français, dont vous avez la photo ici dans le Parisien, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Comme on l'a fait pour un autre soldat français il y a quelques jours, donc c'est dans le Parisien, blessé au Liban, un nouveau soldat français est décédé. En fait, il avait été blessé et grièvement, maintenant on le sait, lors de cette attaque a priori des soldats casque bleu de la FINUL par le Hezbollah au sud du Liban. Et un de ces, alors deux ou trois, c'est un peu flou, militaires français qui avaient été blessés, eh bien l'un de ces soldats est décédé des suites de ses blessures. Le caporal-chef Anicet Girardin s'est éteint ce mercredi. Il avait été pris
dans une embuscade samedi. Il était père d'un petit garçon, le caporal-chef Anicet Girardin, issu du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes dans la Marne, je crois qu'il était maître chien, a succombé à ses blessures ce mercredi, au lendemain de son rapatriement du Liban, a annoncé le président de la République. Maître chien depuis bientôt 10 ans, le soldat de 31 ans avait été grièvement blessé par des combattants du Hezbollah dans une embuscade samedi aux côtés du sergent-chef Florian Montorio, décédé sur le coup, lui, père de famille aussi, si je ne dis pas de bêtises. Violemment pris à partie par des tirs nourris de combattants du Hezbollah, embusqué à très courte distance, il portait secours à son chef d'élément, justement, qui venait de tomber lorsqu'il était à son tour grièvement touché. Donc, ce deuxième militaire français, a priori, aurait été touché alors qu'il venait au secours de celui qui a été tué sur le coup. Donc, du côté de la France, on accuse expressément, directement et clairement le Hezbollah. Parce que sur le coup, il y a quelques jours, il n'y avait pas de certitude. Engagé depuis octobre 2016, donc il était engagé depuis 10 ans, au sein des forces armées, il avait effectué un parcours exemplaire selon l'armée de terre. Après avoir achevé avec succès sa formation d'adaptation d'aide dresseur, il se spécialise dans l'aide à la recherche et à la détection d'explosifs, constituant un binôme particulièrement performant avec le chien Joko. Consciencieux, discret, d'une grande fiabilité, il avait fait preuve d'un savoir-faire remarquable et se distingue rapidement parmi ses pairs, à celui de l'état-major. Le trentenaire n'était pas à son premier déploiement. Oh, il était très jeune. Quel âge il avait ? 31 ans. Il était déjà parti en OPEX, en opération extérieure au Liban, durant 4 mois en 2019, puis au Mali en 2022 pendant 3 mois. Voilà. Donc l'article disait qu'avec son chien, il était notamment spécialisé dans l'aide à la recherche et la détection d'explosifs. Et à la suite de cette mission, il avait été promu caporal-chef. Il se trouvait au Liban depuis le 23 janvier, en qualité de chef d'équipe sino-technique dans le cadre de la participation de l'armée française au casque bleu, à la force intérimaire des Nations Unies au Liban, ce qu'on appelle la FINUL, sur le rôle de laquelle on s'est penché il y a quelques jours. Voilà. Natif de Reims dans la Marne, Anicet Girardin venait tout juste de fêter ses 31 ans. Le maire de la commune, Arnaud Robinet, a salué sa mémoire sur Instagram en annonçant que lui serait rendu un hommage solennel lors des cérémonies des 7 et 8 mai. L'homme était en couple depuis plusieurs années avec une jeune femme de 29 ans, originaire du Pas-de-Calais. Il s'était paxé à l'été 2023 et était devenu dans la foulée parent d'un petit garçon. Son unité a notamment été déployée dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby 2023, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Anicet Girardin avait à l'époque témoigné auprès du quotidien L'Union, hein, L'Union dans la région de Reims, si je ne dis pas de bêtises, non ? L'Union. En marge d'un exercice de sécurisation et de détection des explosifs au stade Auguste Delaune de Reims. Voilà. En binôme avec son chien, le caporal-chef avait expliqué la coopération mise en place pour inspecter un stade avant un événement de grande ampleur. On laisse quand même assez l'initiative à l'animal, cela aide le chien à ne pas se lasser, affirmait-il. Voilà. Suippes, c'est chez moi, me dit Lucie Liberté. Gros choc local. Voilà. Donc, voilà, nous avons rendu hommage ici au premier soldat français tué il y a quelques jours dans cette embuscade du Hezbollah, hein, Florian Montorio, et je souhaitais qu'on fasse de même pour cet homme, ce père de famille, ce soldat, Anicet Girardin. Voilà. Je vous lis. Et merci pour les messages de condoléances à sa famille. Je pense que s'ils étaient sur ce chat, ça les toucherait. Comment peut-on dire des propos comme ceux qu'on a eu en intro ? Écoute, il y a eu un message tout à l'heure, effectivement, que j'ai trouvé bien, bien triste. Voilà. Ah, mais vous êtes 3300. Tout à l'heure, j'ai vu un message problématique sur le sujet. Voilà. Je pense que dans notre grande majorité... On sait ce que un pays comme le nôtre doit à l'engagement de ces hommes et ces femmes dans les forces armées qui, voilà, qu'on veuille le comprendre ou non, mettent en jeu leur vie pour nous défendre ou défendre les intérêts de la France ou ici une mission de paix dans le cadre des casques bleus de la FINUL au Liban. Voilà. Bon. J'allais dire, et j'espère que dans les prochains jours, on n'aura pas à refaire un tel hommage. Alors, sujet dans le Parisien, c'est intéressant que la presse commence à s'intéresser à ces sujets parce que il y a encore peu de temps, c'était très peu, voire jamais évoqué. Une enquête de loin en loin, mais c'est une partie de l'économie qui est souterraine pour le coup. Et là, on commence à avoir de plus en plus de papiers sur le sujet. Je veux parler de l'économie de la livraison à domicile. La tia-tia, on t'envoie plein de force. Voilà. Dossier dans l'IB. Et on va le mettre sur YouTube celui-ci parce qu'il est vraiment intéressant, parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses sur cette économie. Loin des discours des grosses entreprises et des intérêts économiques et financiers qu'il y a derrière. Amis de YouTube, bonjour, vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. Vous avez le sommaire avec toute l'actualité qu'on évoque aujourd'hui, ce jeudi, mais il y avait une actualité qu'on voulait mettre en avant, qu'on voulait partager avec vous, qui est en une du Parisien, sur les réalités de l'économie de la livraison à domicile. Hein. Livraison à domicile, et avec une grande première en France, une plainte de 4 associations de coursiers contre les géants Uber Eats et Deliveroo, une plainte pour traite d'êtres humains. 4 associations de coursiers ont engagé des poursuites en justice auprès du parquet de Paris contre ces plateformes, les géants du secteur dénonçant des conditions de travail contraires à leur dignité. Il y a quelque temps, on a déjà lu des papiers là-dessus et des enquêtes, notamment dans Libération, je crois, peut-être dans l'Humanité aussi, sur les conditions de travail des hommes, puisqu'à hauteur de 80, il y a une enquête qui a été menée récemment, à hauteur de plus de 90% sont des hommes, et de ces étrangers, puisqu'à plus de 90% sont des étrangers, et le plus souvent, nous a appris cette enquête il y a quelques jours, en situation irrégulière. Penchons-nous sur ce phénomène, sur ces conditions de travail, sur cette plainte en justice et ce qu'il y a derrière. Des livreurs exploités. Quatre associations attaquent donc Uber Eats, Deliveroo pour traite d'êtres humains, donc les mots sont extrêmement forts. Traite d'êtres humains, ça nous renvoie à l'esclavage, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, dénonçant des conditions de travail contraires à leur dignité. C'est une première, ça n'est jamais arrivé en France. Ils font désormais partie du paysage, sillonnant les rues, arc-boutés sur leurs deux roues pour livrer repas ou courses, qu'importe la météo, vous connaissez, hein, vous y faites peut-être appel, un service plébiscité par les usagers, mais dont les coulisses ne cessent d'être dénoncées par ceux qui le rendent, et de plus en plus. Régulièrement, les livreurs posent le vélo, font grève pour protester contre leurs conditions de travail. Cadence infernale, horaires à rallonge, algorithme tout-puissant et baisse constante des revenus. Certains, parce que ça c'est un constat qui a été fait aussi, ça paye moins que ça n'a payé hein, ce métier. Certains parviennent à faire condamner les plateformes pour leurs entorses au droit du travail, des décisions rares au regard du nombre de ces forçats du bitume. Combien de livreurs de ce type en France estimés à 70 000 ? Le chiffre est énorme. Pour faire changer les choses, 4 associations de livreurs ont déposé plainte ce mercredi auprès du parquet de Paris pour traite d'êtres humains à l'encontre précisément d'Uber Eats et des Deliveroo. Cette plainte est inédite car jamais, sauf erreur, les plateformes n'ont été poursuivies sur un tel fondement qui se rapporte en réalité à de l'esclavage moderne, précise maître Thibault Lafourcade, qui est leur avocat. Alors il y a Camisole qui dit « Bonjour, comme évoqué lors des précédents articles, que le consommateur arrête d'utiliser ses services et se questionne sur ce modèle économique. » Alors, c'est une solution. Voilà, moi, je lance le débat. Je pensais le faire plus tard, mais la question de Camisole est intéressante. Quel est le comportement que nous devons adopter, nous, en tant que citoyens? Est-ce qu'on doit faire, au regard de ce qu'on va découvrir dans un instant sur les conditions de travail de ces livreurs, est-ce qu'on doit arrêter de commander à ces sociétés, hein, au risque de supprimer ces emplois qui sont des emplois catastrophiques, mais dont ont besoin les personnes concernées, pour l'essentiel des étrangers et beaucoup d'étrangers en situation irrégulière, hein, ou est-ce qu'il faut plutôt, par la loi, par la mobilisation, dans l'ordre, par la mobilisation et par la loi, forcer les plateformes à créer des conditions de travail correctes pour ces gens. Voilà, c'est ça le débat en fait.
Cette plainte s'appuie sur de nombreuses études, dont les données caractérisent selon lui un recrutement de livreurs précarisés et une exploitation dans des conditions de travail contraires à leur dignité. D'abord destinés aux étudiants, hein, des jobs à temps partiel pour, voilà, ou en complément, hein, et c'est encore le discours d'ailleurs dominant dans ces plateformes, ces jobs auraient perdu leur attrait économique pour échoir à une population. Aujourd'hui, c'est ce que disent les enquêtes en France sur le sujet, dont une très complète qui a été menée il y a quelques jours, aurait perdu leur attrait économique pour échoir à une population essentiellement composée de personnes immigrées, 98% de personnes immigrées selon une récente étude de Médecins du Monde qu'on a lue ici, hein, et 68% n'ayant pas de titre de séjour. Donc ce que cette étude qui a été rendue il y a quelques jours, notamment par Médecins du Monde, dit, c'est qu'aujourd'hui, 98% des coursiers sont des personnes immigrées et 68% n'ont pas de titre de séjour, sont donc en situation irrégulière. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de femmes livreurs. Les trois quarts de ces livreurs seraient ainsi contraints de louer leur compte à un tiers, puisque sans papier, ils n'ont pas le droit d'avoir un compte, hein, tiers qu'il faut rémunérer, hein, ce qui vient réduire encore d'ailleurs la rémunération déjà très faible à la base. Une pratique illégale mais courante qui ampute encore le revenu qualifié de dérisoire dans la plainte. En 2023, les plateformes avaient signé un accord pourtant garantissant aux livreurs un revenu minimal horaire de 11,75 € brut, donc on peut se dire, ah bah voilà, hein, il y a eu un progrès, porté même à 14 € depuis par Uber Eats, mais, et le mais, il est essentiel, mais sans compter les temps d'attente. Voilà. D'après Médecins du Monde, les livreurs travaillent donc en moyenne 63 heures par semaine, pour 1480 € mensuels, soit un revenu horaire non pas de 14 €, non pas de 11,75 €, mais inférieur à 6 € brut. Voilà. Ça, c'est la réalité économique de ce secteur aujourd'hui. Une étude qui est contestée par Uber Eats, tant sur le temps de travail, hein, eux, ils n'ont pas les mêmes chiffres, les livreurs se connectent en moyenne 26 heures par semaine, que sur leur rémunération en hausse de 5% par rapport à 2024. De son côté, Deliveroo fait valoir qu'elle se situe parmi les plateformes les plus performantes du secteur en termes de rémunération et d'y mener des discussions dans le cadre du dialogue social. Donc les deux plateformes contestent ces chiffres. Mais c'est la structuration même de cette économie de la flemme, alors ça parle de nous, citoyens consommateurs, qui est jugée problématique. Les plaignants dénoncent un statut d'auto-entrepreneur subi, imposé, là où une présomption de salariat devrait prévaloir. Hein, c'est quand tu es auto-entrepreneur mais que tu ne travailles que pour un employeur, pour une plateforme ici, eh ben, c'est ce qu'on appelle du salariat déguisé. Un enjeu dont l'Union européenne s'est d'ailleurs saisie dans une directive de 2024 que la France, qui a 2 ans pour le faire, n'a toujours pas transposé dans sa législation. Donc au niveau de l'Union européenne, parce que souvent, tout à l'heure je disais, mais est-ce que la solution, c'est ou d'arrêter de faire appel à ces plateformes, mais là vous condamnez ces gens qui font un travail de chien, mais qui ont ce travail, à ne plus travailler, ou alors vous changez la loi et les règles. Il y a une directive de l'Union européenne qui justement prévoit que là où il y a statut d'auto-entrepreneur forcé, eh bien il y a une présomption de salariat qui devrait prévaloir. Sauf que le droit français n'a pas encore traduit dans nos lois, cette directive européenne. Derrière une présentation très moderne, ces plateformes instituent un travail à la tâche tel qu'il existait au XIXe siècle, avec la création d'une société de valets, estime Circé Linard, qui est coordinatrice de la Maison des coursiers de Paris, l'une des associations qui a porté plainte. Certains de ces livreurs se connectent de 7h à minuit. Le non-paiement des heures d'attente permet aux plateformes de disposer d'un vivier de main-d'œuvre avec une mise en concurrence des livreurs entre eux. Certains passent leur journée à refuser des courses trop peu rémunérées, mais peuvent aussi céder par peur d'être blacklistés, pointe Jonathan Lutil-Chevalier, coordinateur de la Maison des livreurs à Bordeaux. L'algorithme teste en permanence le niveau de précarité des livreurs pour voir jusqu'où il peut descendre. Cette phrase, elle est monstrueuse. La plateforme sait tout du livreur tandis que lui ne sait plus rien du système, reprend cette plainte qui dénonce un système opaque fait de dépendance et de crainte. Il travaille sous pression psychologique constante, notamment avec cette peur de voir leur compte déconnecté, annulé. Avec la peur au vent de se voir déconnecté et de plus avoir de travail et de revenus. Un retard dans la livraison, un soda renversé, c'est la mauvaise note assurée, pour répondre aux exigences. Les livreurs prennent tous les risques, tout le temps, par tous les temps. Quand il pleut, on peut m'appeler pour 4 ou 5 accidents dans une nuit. Dépeint par exemple Youssouf Camara, qui est le président d'une association qui regroupe 600 livreurs à Bordeaux. Je vous lis et je continue la lecture de l'article, je vois beaucoup de réactions. C'est quelle plateforme? C'est Uber Eats et Deliveroo qui sont dénoncés de façon nominative dans la plainte. Personne ne les oblige, vient d'écrire Dolman 654, qui estime en fait qu'on peut proposer à peu près n'importe quel taf, à n'importe quelle condition, à n'importe quel salaire, quel que soit le nombre d'heures, les risques pour la santé en France. S'il y a des gens qui l'acceptent, c'est leur problème. Merci beaucoup pour cette intervention dans le chat. Voilà. Je pense que même au Moyen-Âge, on était un peu plus avancé sur le sujet que ce que tu viens d'exprimer. Pardon d'être un petit peu sec. Je confirme pour travailler dans l'accompagnement en formalité d'entreprise, me dit Inacro. La majeure partie d'immatriculation en micro-entreprise des coursiers à vélo sont de nationalité étrangère. Par contre, ils ont tous un titre de séjour car ils ne peuvent pas avoir de cabis. Oui, ça c'est pour les déclarer. Tout à fait. Mais c'est pas ce que dit l'enquête de Médecins du Monde, qui dit que les deux tiers de ces coursiers sont en situation irrégulière et qu'ils louent en fait des vrais comptes, ceux que tu décris, à des gens qui en fait, eux, ont les papiers. Ah, il y a un témoignage d'Alex Caco dans le chat. J'ai été livreur Uber Eats en Belgique. Ah, ça relague. Désolé. Ah, j'ai failli pas faire cette revue de presse à cause du lag, hein, je suis désolé. Désolé, j'ai un problème de connexion. La fibre a pété dans mon quartier. Je suis confus. Hop, je vérifie un truc d'ailleurs. Je me demande si le Wi-Fi est parvenu. Je check. Non, toujours pas. Attendez. Attendez, il y a un monde où la co... Ce serait fou. Non. Je vérifie juste que la connexion est revenue ou pas. Non. Si. Attendez, il y a un monde où la connexion est revenue, auquel cas je couperai le live. Attendez. Et tant pis, je vous demande de vous reconnecter, mais ce serait réglé. Je crois que c'est bon. Je fais un test de débit. Voilà. Alors certes, ça vous oblige à refresh dans un instant, mais ça nous réglerait notre problème. Ah bon, les amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que je crois que la fibre est revenue dans le quartier. Donc, avec votre autorisation, je vais me reconnecter. Et comme ça, on va poursuivre le stream dans de bonnes conditions. Ça vous va? On fait ça? Ça va durer une minute. Il faudra juste vous refresh. OK? On fait ça? Ah! Je crois que là, ça va mieux marcher. Un petit F5. Et normalement, vous m'avez en qualité fibre. Voilà. C'est le quatrième live de ce matin. C'est bon? Voilà, c'est réglé. Désolé, Nebus, ça n'arrive jamais d'habitude. Il y a un problème de fibre qui a été coupé dans le quartier et qui devait potentiellement durer jusqu'à demain. Finalement, ils ont réussi à régler ça. Voilà. Ok, super. Un petit F5 et vous avez tout. Donc, je reviens à notre débat. Je reviens à notre débat qui est très intéressant sur ces livreurs. Leur prendre les bonnes conditions. Attention au discours qui responsabilise les consommateurs, me dit Disco Shiny Nuts, que je suis content de revoir dans cette communauté. C'est un pseudo que je n'avais pas vu depuis longtemps. Voilà. Je n'utilise pas perso, me dis-tu. Hein. Mais c'est à l'État de faire en sorte de légiférer pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs, à mon avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Parce que c'est le débat central, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça le débat, en fait. Alors, vous êtes très nombreux à me parler du film L'histoire de Souleymane, hein, qui parle exactement de ce sujet que moi, je n'ai pas vu encore. Pas d'accord, me dit Dopio Boy. La responsabilité du consommateur est à prendre en compte en participant à ce système. C'est trop facile de culpabiliser les gens. Si quelque chose est légal mais pas éthique, c'est à l'État de s'en occuper. Pour moi, appeler au boycott, c'est utopique, me dit Sugar, de penser que ça va marcher. Il faut punir ces plateformes et les donner à les forcer à donner un vrai statut aux livreurs pour qu'ils soient protégés. Je suis utilisatrice et j'avoue, me dit Elisabeth, que quand une femme seule avec un enfant en bas âge, par exemple, c'est pratique de se faire livrer. Les deux, me dit Tinku, légiférer pour encadrer, plus informer et former les personnes pour changer les habitudes de consommation. Ça va prendre du temps pour arriver, me dis-tu. Moi, la question, je ne suis pas économiste, vous le savez, mais la question que je me pose, c'est si par exemple, si massivement demain, nous décidons d'arrêter de faire appel à ces plateformes. Voilà. On est d'accord que les 70 000 personnes dont nous parlons ici, si nous arrêtons, hein, pour ne pas nourrir ce système, les 70 000, on parle de 70 000 personnes en France, c'est une question toute bête, hein. Que deviennent ces 70 000 personnes? Alors, donc, l'enquête de Médecins du Monde nous a dit qu'à plus de 90% ce sont des gens étrangers et que 2/3 d'entre eux sont en situation irrégulière. Alors, il y a un côté de l'échiquier politique qui a une réponse très très claire à la question que je viens de poser, mais celle-ci, elle ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens dont c'est le seul emploi? C'est ça aussi la question. Je poursuis l'article. Puni de 10 ans de prison et de 1,5 million d'euros d'amende, le délit de traite des êtres humains ne peut être établi qu'à condition de prouver que les plateformes en ont conscience. Deliveroo réfute avec la plus grande fermeté toutes les allégations en lien avec la qualification visée et conteste vigoureusement les intentions qui lui sont prêtées. Et en fait valoir la première quand Uber Eats estime que ce dépôt de plainte que nous apprenons par voie de presse ne repose sur aucun fondement. Elles connaissent par les éléments d'identification obligatoire des études publiées ou ne serait-ce que les rémunérations octroyées la situation d'extrême précarité dans laquelle elles plongent ces personnes, estime à l'inverse l'avocat des associations qui ont porté plainte. Ces livreurs sur notre territoire n'ont pas moins de droits que quiconque, et c'est aussi le message que mes clients souhaitent faire passer. Voilà. Et là, on a quelque chose d'intéressant, on a un témoignage aussi d'un de ces livreurs, justement. Il s'appelle Abou, il a 28 ans, il est livreur depuis 6 ans, et lui, il dit, c'est devenu comme de l'esclavagisme. Les deux roues reconnaissables à leur sacoche isotherme vert pomme s'entassent devant la maison des coursiers à Paris, deuxième arrondissement, financé par la mairie. Cette structure associative offre un refuge aux livreurs à vélo qui peuvent y obtenir une aide administrative, consulter une infirmière ou y patienter au chaud. Ce jeudi après-midi, plus un siège n'était disponible. Entre 14h et 18h, il ne se passe rien, on attend, éclaire Abou, livreur depuis 6 ans, 7 jours sur 7. Certains se connectent dès 7h du matin. Il lui a commencé sa journée à midi, mais n'a aucune idée de l'heure à laquelle il rentrera chez lui dans le Val d'Oise. La veille, il s'est arrêté à minuit, faute de commande, pour un total de 56 euros bruts gagnés dans la journée. Quand le temps n'est pas bon, qu'il fait froid ou qu'il pleut, là on peut monter à 1200 euros bruts par semaine, mais parfois c'est 800 ou 400. Une somme dont il faut encore prélever les 100 euros hebdomadaires que lui réclame le véritable titulaire du compte, puisque vous avez compris que Abou était en situation irrégulière comme les 2/3 de ses livreurs en France. Comme 76% des livreurs selon une étude de Médecins du Monde dévoilée le 31 mars, Abou doit le louer à 1/3 faute de papier en règle. C'est même plus des 2/3. Une problématique connue des plateformes qui ont renforcé la lutte contre la fraude en demandant chaque jour des selfies d'authentification. Et il faut aller vite, sinon ton compte est bloqué, décrypte Abou, qui doit ainsi se plier aux horaires de son loueur et le retrouver en urgence où qu'il soit. Réalité racontée par L'histoire de Souleymane, le film dont vous me parlez beaucoup depuis tout à l'heure, film multiprimé au César et à Cannes, dont une immense affiche orne le mur derrière lui, et une contrainte supplémentaire dans des journées guidées par ce seul objectif, ne pas contrarier la plateforme. Tous les jours, on réfléchit à ne pas avoir de problème, résume cet Ivoirien de 28 ans. Si on refuse trop de courses, si un client ou un restaurateur se plaint, ton compte peut être suspendu ou désactivé. Les conditions de travail, ce sont les horaires, ce sont les conditions de travail difficiles, c'est le salaire faible, et c'est aussi le fait d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête qui fait que ton compte peut être suspendu ou désactivé, que tu sois en situation régulière ou pas, d'ailleurs, à tout moment. comme j'imagine, comme les deux plateformes dont on parle ne sont pas employeurs, parce que font appel officiellement à des gens auto-entrepreneurs. Après tout, hein, il n'y a pas de protection du salarié parce qu'il n'y a pas de salarié, et le compte peut être bloqué, suspendu à tout moment. Voilà, la pression est gigantesque. Une décision en coup près annoncée par un message lapidaire, tu reçois un message sur ton téléphone, hein, tu ne peux plus bosser. Hein. Les demandes d'explications, parfois les supplications, sont gérées par un chatbot qui leur envoie des messages types sans jamais leur donner la raison. Au pays d'Uber Eats et de Deliveroo, le client est roi. Nombreux sont ceux qui exigent que leur repas ou leur cours soit déposé devant leur porte, même au sixième sans ascenseur. Quand bien même cela ne fait pas partie du contrat, les frictions sont légion. Si le code et l'étage n'ont pas été renseignés, on n'a pas le droit d'entrer, mais ils ne veulent pas l'entendre, souligne Abou, parlant des clients. Hein ? J'ai payé, tu montes, les autres ils montent, s'est-il un jour vu rétorquer avant d'être frappé par ce client mécontent ? Voilà. La livraison est devenue comme de l'esclavagisme, déclare ce livreur. On a tout le temps peur d'être déconnecté, donc on est obligé d'accepter ce qu'on nous impose. Le jeune homme déplore aussi, il n'est pas le seul, une baisse constante des tarifs depuis la fin de la pandémie. Avant, une course de 4 km était payée 6,50 €, maintenant c'est 4,50 €. Et si on ne la prend pas, un autre le fera. Il est 17h, son portable sonne enfin, un rapide coup d'œil et il décline la course. Aller dans le premier arrondissement, attendre, livrer dans le 7e, c'est plus d'une demi-heure, à 5 €, c'est non. Pour parer à l'épuisement et faire face aux distances de plus en plus longues, il n'est pas rare qu'il livre jusqu'en grande banlieue. Abou a investi dans un scooter. Ceux qui n'ont qu'un vélo classique n'ont aucune chance, selon lui. À la crainte du vol de matériel ou d'un contrôle de police s'ajoute celle de l'accident. Quand il neige, il y a beaucoup de commandes, mais c'est dangereux. Je suis tombé plusieurs fois. Quand tu le signales, l'application te demande d'abord si tu peux livrer quand même. Quand tu dis que tu as un accident, à l'application, la première question de l'application, c'est est-ce que tu peux livrer quand même ? Percuté par une voiture en pleine nuit, il avait dû attendre le lendemain pour voir un médecin. Dans l'après-midi, il était de nouveau en selle. C'est le travail le plus ingrat qui soit, selon Yaya Seko, qui est ivoirien. Dans son sac à dos, une chambre à air, du petit outillage. Si tu tombes en panne, tu dois te débrouiller seul. Il décrit des journées à faire attention à tout, la circulation, l'itinéraire, la police, ses clés, son portable, verrouiller son cadenas et sourire aux clients. Lui non plus ne compte plus les humiliations teintées de racisme, ceux qui récupèrent leur sac en prenant soin de ne pas le toucher, qui lui claquent la porte au nez ou se plaignent de son accent. Quand tu rentres dans les restaurants, on te dit que tu gênes. Tu peux faire 10 km, payer 10 euros pour un client qui va te parler comme si tu n'étais même pas un être humain. Souvent, ça me déprime, mais quand je pense à ma famille, je me dis que je suis obligé. Alors, je baisse les yeux. Voilà. Alors là, je me félicite que dans les médias, en tout cas les journaux que je lis, des papiers de ce type, avant, il n'y en avait pas, et il y en a de plus en plus parce qu'on est en train de prendre conscience collectivement de cette situation qui... Enfin, qui ne va pas, qui ne peut pas durer, quoi. Je vous lis sur le sujet. Alors, je vois beaucoup de débats dans le chat sur la responsabilité de l'État, des plateformes et des consommateurs. Elle est peut-être partagée, cette responsabilité. La France est opposée à une régularisation de ces plateformes portée par la Commission européenne. Alors, plus précisément, d'après l'article, il y a une directive européenne qui n'a pas été transcrite encore en droit français. Mais tu as raison, attends, je corrige. La France est opposée à cette directive à l'époque. Tu as raison. Ce sont des travailleurs, dit Louis Metz, liés à des entreprises extrêmement précarisées car sans aucun droit de salarié, exploités par des algos inhumains. La situation actuelle est honteuse. Merci Mimbojet, merci Roctali, merci Babylonia, pardon. Avec mes petits problèmes de co, j'étais pas tellement sûr. Merci Lestratovic, merci FDP pour Fleur de Peau, merci Ice Cream, merci Vicky Lucky, merci Kef, merci Etoek, merci Simonovis, merci Listeria, merci Framaoro, merci Stéphane Roda. Désolé. Acidric, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais ils le savent avant de s'engager, non ? Oui, alors, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Juste en dessous de toi, Acidric, écrit Madgy Twitch, l'immigration illégale qui crée des travailleurs précaires et tire tous les salaires vers le bas, le rêve du capitalisme en somme. Ont-ils un autre choix que d'accepter ces emplois, je mets des guillemets, parce que on ne peut pas parler d'un emploi. C'est le dilemme du faux choix. Alors, Emma de la Toile écrit « Ne nous voilons pas la face pour avoir bonne conscience. Nous sommes autant responsables que les entreprises de cette précarisation. Si pas de demande, pas d'offre. Et on se dédouane en disant qu'on les fait travailler. C'est les mêmes arguments que pendant la colonisation. » Encore une fois, si demain, on se mobilise tous pour arrêter de faire appel à ces plateformes, à ces services, quid de ces 70 000 personnes? Qu'est-ce qu'elles deviennent, quoi? Est-ce que la solution n'est pas plutôt que des nouvelles règles soient mises en place pour que ces personnes puissent travailler dans de bonnes conditions, quoi. Minimal de décence. C'est là où l'État a un rôle à jouer, et le législateur. Encore une fois, il y a une directive européenne, hein, qui demande, qui n'attend que son application en droit français. Alors, je ne sais pas si on aura la solution collectivement ensemble ce matin à ce sujet. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, vous avez le dossier du Parisien ce matin. C'est même ça une avec cette plainte de plusieurs associations pour traite d'êtres humains, autrement dit pour esclavagisme. Un autre sujet ô combien difficile dans l'actualité ce matin. Voilà. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Une ligne téléphonique en France qui existe depuis 2019 pour éviter le passage à l'acte pédophile. Je lis le titre de Libé, pédophilie, une ligne téléphonique pour éviter le passage à l'acte. Le dispositif STOP, lancé en 2019, permet aux personnes sexuellement attirées par les enfants, je ne savais pas que ça existait, d'être mises en relation anonymement avec des professionnels de santé avant d'être orienté vers des soins adaptés. En 2025, l'année passée, la ligne a reçu plus de 4000 appels. Alors moi, je ne connaissais pas ce dispositif. On va le découvrir et on va voir ce qu'il y a derrière. Lorsque le 0806 23 10 63 s'affiche sur l'écran du téléphone de l'accueil, Laure Vivier, secrétaire du Centre de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles du Rhône, sait d'office à quoi s'attendre. Au bout du fil, des personnes attirées sexuellement par les enfants qui souhaitent se faire aider en appelant ce numéro, le numéro STOP, STOP pour service téléphonique d'orientation et de prévention. Une cellule d'orientation anonyme créée par l'État, quelqu'un me disait, est-ce que c'est une assoce qui le fait? Est-ce que c'est l'État? C'est l'État. Afin de rediriger les personnes pédophiles vers des soins adaptés et éviter de potentiels passages vers la pédocriminalité. J'ai hésité pendant une semaine avant d'appeler. On se souvient, Nathan, bientôt trentenaire, les prénoms ont été changés, hein. Il a contacté par exemple le dispositif STOP en décembre 2024, travaillant dans un collège. Il commence à éprouver ce qu'il décrit comme étant des sentiments amoureux envers une élève de 12-13 ans, à qui il propose sans cesse aide et conseils, et ce qu'il comprend vite, n'être pas normal du tout. C'est lui qui fait le constat. Selon son récit, la direction du collège l'a même convoqué, hein, alerté par sa proximité avec l'élève. Un déclic qui l'a définitivement convaincu qu'il était temps de chercher de l'aide. Un peu plus tôt, Nathan était tombé sur une affiche du dispositif STOP, partagée sur Facebook, qu'il avait gardée au cas où. Ce n'était pas la première fois qu'il se sentait attiré par une enfant, mais avant, ce n'était pas quelque chose de très fort, donc je pouvais le mettre de côté, assure-t-il. Lorsqu'il appelle la ligne d'écoute, il tombe directement sur une psychologue, avec laquelle il échange pendant plus de 2 heures, et le convainc de prendre contact avec une professionnelle spécialisée dans sa ville. En janvier 2025, Nathan entame alors un suivi dans un centre médico-psychologique. Comment ça se passe? La psychologue qu'il consulte lui prodigue des conseils sur son comportement, l'aide à préparer un changement de carrière pour s'orienter vers l'éducation des adultes, pour qu'il ne soit plus en contact avec des enfants. S'il assure qu'il fait très attention à sa posture vis-à-vis d'élèves pour lesquels il dit éprouver des sentiments, il estime que ne plus travailler auprès d'adolescents est préférable, donc il est assez d'accord avec ce constat. Nathan explore avec la soignante l'origine de ses pulsions, qu'il ressent depuis l'adolescence, dit-il, affirmant que tout ce qui concerne ses attirances a refusé de grandir avec lui. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui de se sentir très amoureux de sa compagne, qu'il fréquente depuis 7 ans, et à qui il s'est confié sur sa pédophilie, qu'il espère voir disparaître à terme. J'aimerais que ce ne soit pas là, dit-il. Alors vous êtes plusieurs à connaître le sujet. Il y a Réjoxy qui me dit, par exemple, Donc, quelqu'un me disait ne pas confondre pédophile, celui qui attire, qui ressent une attirance pour des mineurs, des enfants, et celui qui passe à l'acte. Hein. Et Rejogzi me dit justement, la plupart ne passent jamais à l'acte et font face à ces pulsions toute leur vie et se font soigner quand ils osent. C'est expliqué dans le livre de la clinicienne dont tu parlais plus haut. Écoute, je vais aller voir ton historique parce que j'ai raté tes messages, mais c'est très intéressant. Voilà. Une psychlinicienne et criminologue qui explique la pédophilie sous l'angle de la pathologie et du soin. Très, très intéressant. Okay. Tu n'avais pas le nom de l'auteur. Eike Droïka rappelle, on juge des actes et pas des pensées. Flidac, j'ai vu cet article passer, c'est vraiment une super initiative en vrai. Article à lire, la prévention, en tout cas agir avant l'acte, est le plus efficace et souhaitable à mon avis. Il faut absolument un vrai suivi par la suite en revanche. On va en parler. Je continue avec l'article. Référence de l'article, c'est page 12 dans Libération aujourd'hui. Voilà, Adam. Autoroute dans le chat écrit « La pédophilie est un trouble causé principalement par des problèmes endurés dans l'enfance, principalement dis-tu. La pédocriminalité, en revanche, est un crime puni par la loi, immoral, accompagner les personnes ayant ce trouble est primordial pour prévenir les actes et protéger les potentielles victimes. » Merci à toi. En 2025, la Fédération française des CRIAVS a compté 4577 appels à ce dispositif STOP. 84% étaient des premiers contacts, inspirés des modèles anglais et allemands, donc ça existe déjà chez nos voisins européens. STOP a d'abord été expérimenté dans 5 CRIAVS en France en 2019, puis étendu à l'ensemble du territoire en 2021. Alors les CRIAVS, pardon, ça a été expliqué au début, ce sont les centres de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Quelqu'un me dit tous des hommes ? Majoritairement, oui, l'article va le dire à un moment. Très majoritairement. Lorsque des patients appellent, il y a un message automatique qui se déclenche qui leur demande à la fin d'indiquer leur numéro de département en fonction duquel ils sont orientés vers le centre de ressources de proximité. Environ 90% des appelants ont été identifiés comme des hommes. Voilà, donc vous avez le ratio. Le but, précise Anne-Laure Avis, qui est coordinatrice de cette fédération, c'est qu'ils puissent parler à des professionnels pour éviter un passage à l'acte et une potentielle nouvelle victime. Résume Mathias Poitot, psychologue au CRIAVS Rhône-Alpes. Même s'il s'agit d'un numéro à destination des pédophiles, il rappelle que STOP n'est en aucun cas un dispositif de protection des pédocriminels. Hein. À partir du moment où on imagine un mineur en danger, la question de la confidentialité est levée. On fait un signalement au procureur. Donc ça veut dire que si les gens à l'écoute se voient confesser des actes condamnés par la loi, ils lèvent la confidentialité et ils signalent au procureur. Ça n'est pas un dispositif de protection des pédocriminels, c'est un dispositif d'écoute des pédophiles. Hein, c'est pas la même chose. Le dispositif a beau être confidentiel, il permet sur réquisition de la justice de remonter jusqu'à la personne qui appelle. Travaillant au CRIAVS Rhône-Alpes depuis 2022, le psychologue n'a été confronté à cette situation qu'à une occasion. Voilà. La plupart des personnes qui nous appellent, c'est dans l'idée de partager des fantasmes ou des pensées qui souvent deviennent de plus en plus envahissantes. Ceux qui sont déjà passés à l'acte sont largement minoritaires, décrit Laure Vivier. Le premier contact est délicat, la secrétaire médicale doit rassurer le patient, le convaincre de poursuivre sa démarche vers les soins malgré la honte et la culpabilité. S'il est prêt à aller plus loin, je transmets l'appel à mes collègues cliniciens, détaille-t-elle, parfois sans succès. Voilà. J'ai eu un appel ce matin, mais il m'a raccroché au nez, ça arrive très souvent, dit-elle. Ils chuchotent, ils ne terminent pas leur phrase, il faut poser beaucoup de questions pour avoir peu de réponses. Dit Mathias Poitot, ce qui est parfois compliqué à entendre pour le grand public, c'est qu'on ne choisit pas d'avoir des attirances pédophiles. Ce sont surtout des gens très perdus, qui réalisent qu'ils sont addicts à la pornographie, voire à la pédopornographie, ou qui sont angoissés parce qu'ils se sont sentis très mal, à l'aise avec un gamin, décrit un autre psychiatre, Walter Albardier. Les études scientifiques actuelles ne permettent pas d'identifier une cause unique ou déterminante expliquant le développement d'une attirance pédophile chez un individu, ni de définir un profil clinique type. Un Sleepy Tomio dit ce qu'on choisit, c'est pas cette attirance-là, c'est de passer à l'acte ou pas. Ces deux infirmières, Laure Vivier et Lise Ribaud, soulignent qu'il s'agit d'un phénomène complexe, multidimensionnel, largement individuel, résultant d'interactions entre différents facteurs. Parmi les patients, au moins 20% souffrent davantage de troubles obsessionnels compulsifs que de pédophilie, estime un psychiatre. Des personnes obsédées par la peur d'être attirées sexuellement par les enfants qui n'arrivent plus à démêler le vrai du faux de leur ressenti. Une partie infime va aller regarder des images pédopornographiques pour vérifier si ça leur fait quelque chose, dont la prise en charge est primordiale, souligne-t-il. Une fois que les patients arrivent en consultation, les professionnels mettent en place une psychothérapie. Qu'est-ce qui se passe après ? Traitement médicamenteux ou encore groupe de parole. On essaie de comprendre comment cette attirance s'est construite dans le parcours de vie, comment le patient vit avec, comment la réguler. Si les professionnels essayent de privilégier les orientations vers les centres médico-psychologiques, des structures publiques, le manque de place, les délais, les contraintes parfois à envoyer vers des médecins, des psychologues libéraux, identifiés comme compétents sur le sujet. Car parmi les appelants, vous avez beaucoup de personnes qui sont déjà suivies au niveau psychologique, qui ont besoin d'être rassurées dans l'idée qu'ils peuvent en parler à des soignants. Le problème, c'est que beaucoup de psychologues ou psychiatres ne sont pas forcément prêts, disponibles ou à l'aise avec le fait d'aborder cette question des fantasmes pédophiles avec leurs patients. Les personnes en recherche d'aide peuvent donc parfois se retrouver livrées à elles-mêmes sans possibilité de se confier vers les difficultés avec lesquelles elles se débattent. Quand j'étais ado, j'aurais adoré avoir un numéro comme celui-ci, regrette Esteban. Âgé d'une vingtaine d'années aujourd'hui, il a contacté ce dispositif Stop il y a 4 ans. Il éprouve dès l'adolescence une attirance envers les plus jeunes, dont il dit énormément souffrir. J'allais voir un psy au lycée déjà à ce sujet, mais ça n'a pas vraiment résolu le problème. Lorsque Esteban déménage pour les études supérieures, le suivi prend fin. Un nouveau suivi s'engage auprès de la psychologue de son université, mais ces professionnels n'ont pas forcément les ressources pour traiter ces problématiques, déplore-t-il, sentant alors un manque de soutien. C'est sur un forum internet qu'il finit par tomber sur ce numéro, Stop. Vraiment au fond, il se décide à appeler. Esteban est d'abord orienté vers une psychologue dont les méthodes thérapeutiques ne lui conviennent pas. Il rappelle alors le dispositif qui lui recommande cette fois un psychiatre avec lequel le suivi se poursuit encore aujourd'hui. Donc on a quand même un exemple intéressant de quelqu'un qui ressent cela depuis l'adolescence et qui, à l'adolescence, puis en tant qu'étudiant, puis en tant qu'adulte, n'a eu de cesse quand même de se faire accompagner, quoi. Ayant quand même une conscience profonde que c'est un problème et qu'il faut essayer de le traiter, de le comprendre, de l'accompagner, de l'encadrer. Le jeune homme dit qu'il a trouvé une forme d'apaisement, c'est toujours présent, voilà. Mais c'est quand même beaucoup moins dur qu'il y a quelques années, j'ai l'impression d'être sorti du cycle de dépression dans lequel je m'étais enfermé. Dans le petit bâtiment à la façade couverte de lierre accolé à l'hôpital de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, les soignants du CRIR Ville-de-France reçoivent au moins un appel stop par semaine, rapporte une psychologue arrivée il y a 6 mois. Les deux derniers que j'ai eus pleuraient parce que la honte prend toute la place. Ils ont du mal à mettre des mots. C'est pour beaucoup la première fois qu'ils parlent, décrit-elle. Parfois, les gens sont reçus même sur place. Les personnes au bout du fil ne sont pas toujours directement concernées par les pensées pédophiles. Parfois, ce sont des proches, hein, inquiets des comportements de leurs amis ou de leur famille, qui se trouve vers la ligne d'écoute pour trouver de l'aide. Une maman m'a appelé parce que son fils majeur lui avait révélé qu'il était passé à l'acte quand il était mineur sur un autre enfant. Des années après, il était toujours envahi par la culpabilité. Il était enfin prêt à aller entamer un suivi. Donc, elle me demandait des coordonnées pour son fils, se souvient la psychologue. Beaucoup des adultes nous appellent parce qu'il s'est passé quelque chose avec leurs cousins, cousines, petites sœurs ou autres quand ils étaient plus jeunes. Et ça leur reste dans un coin de la tête. et qu'il se demande si c'est un viol, ajoute un autre psychologue. Si les soignants se réjouissent de l'efficacité du dispositif, sa portée est encore limitée par le manque de moyens. Je vous lis dans un instant, parce que je vois que ce sujet vous fait beaucoup réagir. La ligne d'orientation, et avec beaucoup d'intelligence pour la plupart des messages, la ligne d'orientation a été nationalisée à moyens constants, à l'exception du financement des campagnes de communication. Or, ces dernières sont déterminantes puisqu'elles permettent d'atteindre les potentiels concernés qui ne sont pas encore dans une démarche d'accès aux soins. Il faut diffuser l'information le plus largement possible, donc que ce numéro de téléphone existe et qu'un parcours de soins est possible, pour que si quelqu'un est proche de passer à l'acte, il ait une porte de sortie, déclare Jérôme Bertin, directeur général de la Fédération France Victimes, qui accompagne chaque année plus de 30 000 enfants ayant subi des violences sexuelles. Donc lui, il est du côté des enfants violentés et il dit que ce dispositif devrait être étendu. Alors il y a eu des pays précurseurs, on parlait de l'Angleterre et de l'Allemagne en Europe, il y a le Québec aussi. Voilà, avec des initiatives qui ont marché. Pendant quelques mois, nos collègues québécois avaient un contrat avec Pornhub. Selon les mots-clés tapés par les utilisateurs, cela renvoyait vers le site du dispositif. Et les visites ont explosé. Voilà pour le papier, c'est à lire dans Libé. Je vous lis. Voilà. Et je voudrais saluer ce que je disais à l'instant. L'intelligence de la plupart des commentaires dans le chat sur un sujet aussi sensible et compliqué que celui-ci. Merci beaucoup, Anonymous, pour ton message. Allez, je vous lis. Voilà. Alors, l'intelligence de certains propos, pas de tous. Hein. Voilà. La personne qui a été, dont le commentaire a été supprimé tout à l'heure vient de copier-coller le même. Voilà. Va prendre une tisane, va prendre l'air et réfléchis. Manifestement, tu connais mal ce sujet ou tu n'y as pas assez réfléchi. Ah, un petit contournement de ban intéressant aussi. Alors vous êtes plusieurs à me parler d'un titre, d'une chanson, d'un son de Damso, dont Dadra est super, qui se met à la place d'un pédophile, Julien. Des journalistes l'ont fait écouter à des psychiatres spécialisés et ils ont trouvé ça assez juste. Vous êtes plusieurs à m'en parler, depuis tout à l'heure. Allez, je lis encore un ou deux messages et on enchaîne. C'est bien qu'on adresse enfin ce sujet, me dit Aurore, qu'on arrête de faire comme si c'était tabou et chercher des solutions, super initiative. Voilà. Alfacto nous dit peu ou prou la même chose, c'est primordial de parler de ces sujets tabous afin de pouvoir enfin apporter un défaut de solution aux personnes touchées qui en souffrent, belle initiative. Bourat me dit, est-ce qu'il faudrait pas mettre ce sujet en avant sur YouTube plutôt que celui des livreurs? Salut Broco. Alors en fait, je trouve que le sujet des livreurs, il est, qui a rien à voir, est très très fort aussi. Voilà, et j'évite de mettre deux sujets par jour. Moi, j'avoue que j'hésite effectivement. Voilà. Je laisserai Mathieu choisir, qui gère la chaîne YouTube et qui le gère parfaitement bien. Sachant que sur le sujet des livreurs, on a eu des problèmes de lag et de qualité de connexion qui sont réglés maintenant. Peut-être que Mathieu me dira tout à l'heure que effectivement c'était compliqué de mettre en ligne le sujet livreur et qu'on prendra celui-ci. Voilà. Je verrai avec Mathieu tout à l'heure. Merci en tout cas de la qualité de nos échanges. Je vais me prendre un petit café parce que faut que je me relance là. Après, c'est deux sujets très 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 lourds. Pourquoi les gens parlent des homos quand on parle des pédophiles? Bah parce qu'ils ont rien compris de Tillerd. Mais effectivement, j'ai vu quelques messages qui parlaient de ça, mais je pense qu'en lisant le chat, les gens vont se rendre compte eux-mêmes que leur analyse n'est pas pertinente. Justement pas, Samuel, c'est la même chose, on ne contrôle pas l'attirance sexuelle. La grosse différence, mon ami, c'est que l'un de ces attirances dont tu parles, elle est condamnée par la loi. Je pense que c'est une différence assez importante, si je puis me permettre. Donc je ne veux pas mettre les choses sur le même plan. Oui, et entre personnes consentantes par ailleurs. Mais enfin, c'est tellement évident que je ne vais pas lister toutes les différences. C'est vrai qu'il y a une commission à l'Assemblée sur les violences incestueuses, sur laquelle on pourrait se pencher effectivement. Il n'est pas impossible qu'on aille voir un jour le travail de cette commission. puisque effectivement, il y a des commissions de l'Assemblée qui font un travail incroyable. Et l'enchaînement est incroyable parce que justement, nous en parlons de cette haute commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public, sur l'indépendance, le financement, la neutralité de l'audiovisuel public, dont nous avons suivi les travaux pendant plusieurs mois et dont, de l'avis général, la qualité des travaux, en tout cas du rapporteur, n'était pas folle. Alors, où en est ce travail ? Eh bien, on est sur le point, ou pas, de découvrir le rapport du rapporteur, le député UDR, rapporteur de cette commission. Ce que nous apprend le Figaro ce matin, audiovisuel public, le rapport soumis aux députés. Les membres de la commission d'enquête ont jusqu'à lundi matin pour le consulter. Alors, juste le consulter, hein, c'est assez intéressant. Ils n'ont pas le droit d'en avoir une copie, papier ou numérique, ou de prendre des captures d'écran ou des photos. Ils peuvent juste le lire avant d'autoriser ou non sa publication, sachant que le dit rapporteur, ainsi que plusieurs voix d'extrême droite, ont préchoté en disant si jamais ce rapport n'est pas voté par les autres membres de la commission et donc n'est pas publié, ce sera un scandale. Ça montrera bien que vous cherchez à cacher la vérité. Mon avis sur le sujet depuis le début, c'est que ce rapport sera publié justement pour éviter ce fameux procès. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ce rapport, moi je pense qu'il va être publié parce que cette accusation, elle sera trop facile à porter en mode, imaginons que le rapport soit pourri et que les autres membres de la commission décident de ne pas le voter, le publier. Le procès en censure va être tellement gigantesque qu'à mon avis, il y a très très peu de chances qu'il ne soit pas voté et donc publié. Mais je peux me tromper. Lisons cet article du Figaro ce jeudi. Rendez-vous salle 6643, deuxième étage de l'Assemblée, les 30 députés, membres de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui pensaient profiter de cette semaine de pause parlementaire pour se mettre au vert, devront faire un aller-retour à l'Assemblée nationale. Voilà. À partir de ce jeudi matin, donc à partir de ce matin, ils découvriront le rapport rédigé par le député UDR Ciottiste, qui est le rapporteur, vous le savez, de cette commission. Chacun leur tour, à l'heure prévue d'ici à lundi midi, donc ça se passe entre ce matin et lundi prochain. Ils pourront consulter l'exemplaire unique de ce pavé de 300 pages. 300 pages. Et en particulier les conclusions et les propositions du rapporteur. Comme le veut le règlement de l'Assemblée, ils n'obtiendront pas de copie papier et encore moins de version numérique. C'est comme ça, c'est la règle. Hein, tout juste seront-ils autorisés à prendre des notes stylo à la main. Mais interdiction de sortir un smartphone pour faire une photo des passages les plus sensibles. Pourquoi un tel secret? Je ne sais pas, c'est la règle en commission. Les fonctionnaires de l'Assemblée y veilleront. Donc tu as le droit de le lire, tu n'as pas le droit de l'emporter chez toi, quoi. L'enjeu est crucial pour l'avenir de cette commission d'enquête. C'est quand même... Alors si on compte les pauses, c'est entre 4 et 5 mois de travail et d'audition, mais 6 mois en tout, qui a enflammé les médias et les réseaux sociaux depuis novembre. Lundi après-midi, les 30 députés se réuniront afin de voter à main levée pour ou contre sa publication. Donc ça, c'est lundi après-midi. Donc lundi, la semaine prochaine, on devrait savoir si ce rapport va être publié ou pas. Ils ont déjà une idée assez précise de ce qu'ils liront. Sans dévoiler précisément le contenu de son rapport, le rapporteur député UDI qui écrit ce rapport a distillé plusieurs indices dans le JD News. Alors je ne sais pas ce que c'est le JD News, mais dans un média qui s'appelle le JD News. JD News. Qu'est-ce que c'est le JD News? Ah, c'est le nouveau JDD? Ah, c'est le JDD? Non, c'est autre chose ou pas? C'est le nouveau nom du JDD? Ah, ils ont rebaptisé le JDD? Ah, c'est une branche? C'est le JDD Weekend? Ah, c'est le MAG? Ah, c'est le MAG? Oh, d'accord. Ah, c'est le magazine du JDD. D'accord. Donc, ok. Donc, média du groupe Bolloré. Très bien. Donc, le rapporteur a distillé plusieurs indices dans le JD News ce mercredi, citant la surfacturation de certaines sociétés de production, les indemnités de départ très élevées, ou encore les cumuls problématiques parmi les principales révélations de ces 200 heures d'audition. Nous ne nous attendons pas à des surprises, mais plutôt à une confirmation de ce qui a déjà été dit, commente un membre de la commission. Je vous dis dans un instant. Merci Papa Fred, merci Motorbike, merci Bimbo Jet. Le président Horizon de la commission, Jérémy Patrieletus, lui s'est prononcé, c'est pour ça que je pense que ce rapport va être publié, en faveur de la publication du rapport. Alors que pourtant, vous savez qu'il s'est opposé à de nombreuses reprises pendant ses auditions au rapporteur. Même si je conteste les méthodes du rapporteur, j'ai refusé que les auditions se tiennent à huis clos, afin que les Français puissent suivre nos travaux dans la transparence la plus totale. Je n'ai pas encore lu le rapport, mais je suis favorable par principe à sa publication, car les Français sont des citoyens responsables capables de juger par eux-mêmes des méthodes employées, de faire le tri entre les propositions et de se forger leur propre opinion. Quand ça va partir sur les réseaux sociaux, ça. Par ailleurs, ce rapport n'est pas le rapport exclusif du rapporteur. Je rédigerai par exemple moi-même un avant-propos avec des propositions fortes et les groupes politiques feront également des contributions. Une position partagée par une des cinq macronistes de la commission, Céline Calvez, elle aussi très critique vis-à-vis du travail du rapporteur, qui compte voter pourtant pour la divulgation. Et que dit-elle, Céline Calvez ? On a bien compris qu'une non-publication, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pouvait avoir des répercussions plus graves qu'une publication, hein, la fameuse dénonciation de la censure. Hein, vous voyez qu'on dit la vérité, vous voyez que je dis la vérité, la preuve, on m'a censuré. Si fait rarissime dans l'histoire parlementaire, le rapport n'était pas voté, il pourrait ne jamais être rendu public. Toutes les vidéos et des comptes rendus de l'audition seraient supprimés du site de l'Assemblée. Officiellement, les 67 auditions qui ont été retransmises en direct n'auraient alors jamais existé. A priori, ce n'est arrivé que très 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 rarement dans l'histoire de l'Assemblée. Pourtant, des milliers d'extraits, vous le savez, de la commission circulent dans les réseaux sociaux. Vous savez, il y a même des gens qui ont fait des réacts de ces auditions. Salut Eric, Elricum. Il ne subsisterait que des vidéos biaisées qui ne reflètent pas toujours l'intégralité des échanges, avertit la députée. Voilà. Je pense donc qu'il est plus sage de faire publier ce rapport, mais qu'il faut l'accompagner de contributions. Le pragmatisme est de mise parmi les deux députés Modem qui vont s'abstenir, qui ne vont pas voter contre ni pour. Certains membres de la commission veulent voter contre sur le principe, mais il me semble que la censure serait la pire des tribunes à offrir au rapporteur, argue Erwan Balanant, député Modem, qui était pourtant l'un des adversaires les plus motivés du rapporteur. L'élu qui s'est fermement opposé au rapporteur tout au long de la commission d'enquête pose toutefois ses lignes rouges. Voilà, si le rapport trafique les faits ou verse dans la diffamation, si c'est une petite boutique des horreurs, alors ce sera différent. Même son de cloche pour la députée Génération Sophie Taillé-Polian, qui indiquait début avril que si le rapport présentait des caractéristiques de malhonnêteté intellectuelle, de fausses informations ou d'insinuations infondées, elle ne le validerait pas. L'issue du scrutin dépendra en grande partie du ton employé par le rapporteur dans ses conclusions, comme le souligne un membre de la commission. Si, comme le présage un autre député, l'élu ciotiste est malin et livre un rapport suffisamment consensuel, je fais un check sur ma soundpad, sur mes soundpads.
Pardon, soyons factuels, s'il vous plaît.
Je vous remercie pour votre réponse.
C'est ça. Donc, si l'élu ciotiste est malin et livre un rapport suffisamment consensuel pour sortir de cette séquence avec une note de respectabilité, il ne devrait pas y avoir de mal à faire valider ses conclusions. D'autant qu'il peut compter sur le soutien des membres proches de sa famille politique, le député Laurent Jacobelli, un des six membres RN de cette commission. Mais Laurent Jacobelli, je ne l'ai jamais vu, moi, pendant les auditions. Vous l'avez vu, vous ? Bah, Laurent Jacobelli, je le connais très, très bien. Je l'ai beaucoup... C'est quelqu'un que j'ai beaucoup croisé sur les plateaux quand j'étais journaliste à France Info ou ailleurs. Et j'apprends dans cet article du Figaro que c'est l'un des six membres RN de la commission. Bon, dans les auditions qu'on a réact ici, Sac à Puck, ah non, Sac à Puck, c'était pas lui, c'était un ancien journaliste, t'as rien à voir, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà lui, je sais plus. Ah non, rien à voir. Ballard, voilà, monsieur Ballard. Ancien journaliste de LCI notamment. Philippe. Voilà, donc j'apprends que Laurent Jacobelli était membre de cette commission. Voilà. Voilà, peut-être au début, en tout cas on ne l'a pas vu. Voilà. Et lui jugeait début avril qu'il serait grave que le rapport ne puisse pas être publié. Ça aurait été bien de venir, du coup. Pourquoi empêcher la vérité d'être publiée si ce n'est pour protéger certains intérêts et une espèce de collusion ? Voilà. Donc le mec a quand même un avis sur le rapport, mais manifestement n'est pas venu beaucoup aux auditions. Peu importe. Reste que les positions peuvent encore écouter d'ici à lundi. Évoluer, pardon, les membres de la commission étant libres d'échanger pendant le week-end. Les téléphones ont chauffé dès mercredi matin. L'interview du rapporteur dans le JD News a fait bondir plusieurs députés, à commencer par le président Patrick Lettius. Le choix du rapporteur d'accorder une interview au JD News, a fortiori avec des attaques calomnieuses à mon endroit, la veille de la consultation du rapport, est inopportun et irrespectueux. S'étrangle le président. J'ai accepté de réduire le délai de consultation du rapport par les députés pour permettre au rapporteur d'avoir un peu plus de temps de rédaction et de relecture, pas pour qu'il fasse la une d'un magazine. Pop, pop, pop. Ah bon, parce qu'il a fait la une ? Carrément ? Ah oui. Le rapport interdit. Conflit d'intérêts, dépenses somptuaires, opacité des comptes. Ce rapport dérange parce qu'il touche au cœur du système. Charles Alloncle dévoile ce que la commission d'enquête a révélé. Bon, il n'y a rien à dévoiler, il suffisait d'écouter les auditions en vrai. Ok. Ah, c'était la une quand même. Alors, on est sur... Alors, c'est intéressant. Tiens, j'avais pas prévu de faire ça, mais on est sur... Je vois qu'on est sur le compte Facebook. J'ai pas de compte Facebook. Mais du JDD, là où était publié donc le truc. Et je vois qu'il y a des commentaires dessous. Alors, c'est intéressant de voir aussi les commentaires des gens à tout ça. Nous qui avons justement réacté ces auditions. Bravo, monsieur le député, d'avoir mis en évidence tous ces dysfonctionnements financés par nos impôts. Privatisation ! Voilà. Protégez-vous ! Quand on dérange, ça se termine mal et sans témoin. Bravo à vous ! Voilà. Il est à souhaiter que ce rapport soit publié. Voilà. Les Français comprendront mieux ce qu'est le pouvoir en place. Merci. Soutien à M. Alloncle pour son formidable travail. Le rapport doit être publié. Surtout, M. Alloncle, ne lâchez rien. Si tel devait être le cas, gardez-en une copie. Dans quelque temps, ça pourrait servir. Bravo, monsieur le rapporteur. Celui-ci, c'est sûr, je vais le lire. Monsieur Alloncle a fait un vrai travail. La vérité doit être connue. Et surtout, les décisions doivent être prises pour en finir avec cette gabegie de gestion et de cet entre-soi gauchiste malfaisant. Bravo, monsieur. La France a besoin d'hommes comme vous. Merci pour votre titanesque travail. Pardon, Samuel. Pour votre courage, monsieur Alloncle. Comme beaucoup de Français, nous espérons voir publier votre rapport au complet, et ce sans censure aucune, avec un libre accès pour tous. Si ce rapport n'est pas publié, ce serait scandaleux. Bravo à tous les Français qui veulent que le rapport soit publié. Si ce rapport est interdit, alors vive la révolution. Bravo Charles. Voilà, c'est intéressant. Bon, vous avez compris la teneur des messages. Ah, il y a quelques messages critiques, mais ils ne sont pas nombreux. Je vous les lis pareil, ils sont pas majoritaires. Il y en a un. Oh là, il y en a. Mais il y en a combien ? Eh bien, bon bah on va pas arriver au bout, hein. On va pas arriver au bout. Continuons. Donc le président s'étrangle, le choix du rapporteur d'accorder une interview au JD News a fourchiré avec des attaques calomnieuses à mon endroit la veille de la consultation du rapport est inopportun et irrespectueux. J'ai accepté de réduire le délai de consultation du rapport par les députés pour permettre au rapporteur d'avoir un petit peu de temps de rédaction et de relecture, pas pour qu'il fasse la une d'un magazine. Il est en colère. Le député Horizon est d'autant plus courroucé que le rapporteur aurait, selon nos informations, refusé de lui fournir une copie papier de son rapport. Tu iras lire comme les autres. D'autres élus s'indignent de la une du magazine, le rapport interdit qu'on vient d'aller voir, alors que le document était en cours de rédaction au moment du bouclage du JD News. S'il devait y avoir une mobilisation collective pour voter contre le rapport, ce serait en réaction aux provocations, aux pressions de ce type, souffle un membre. L'issue du vote de lundi est donc encore incertaine. Moi, je pense que ce rapport va être voté. Si ce n'est pas le cas lundi, je m'excuserai pour mon analyse. Quel que soit le résultat, Charles Alloncle aura gagné, estime un parlementaire, rapport voté ou pas voté. Si le vote est favorable, ce sera son rapport. Il dira, voyez, mon rapport, il est de qualité, la preuve, les autres membres de la commission l'ont voté. S'il est négatif, il deviendra martyr. Vous voyez, hein, les autres députés n'ont pas voté pour mon rapport. C'est donc qu'on veut me censurer. C'est donc que mon rapport était de qualité. Plaisir que ses collègues n'ont sans doute pas envie de lui faire. Pile, tu gagnes. Face, tu gagnes. Allez, je vous lis un petit peu. Et on enchaîne. Je vois beaucoup de messages que je n'ai pas lus. Ah, tribunal super, dit Sugar, qui fait allusion sans doute à la plainte de Nagui portée contre X pour cyberharcèlement contre toutes les personnes qui ont estime l'animateur désinformé sur les réseaux sociaux. Ceci, donc par des tweets, ceci semblant inclure des tweets du rapporteur. C'est ce que semblait dire Nagui. Il n'a toujours pas retiré ses tweets. Je ne vais pas voir tous les jours, mais à ma connaissance, non. Est-ce que... Ah oui, c'est vrai que quelqu'un me demande... Mais est-ce qu'il t'a présenté des excuses? Alors, il faut contextualiser. Le rapporteur, pendant mon audition et sur les réseaux par ailleurs, ensuite a professé un certain nombre de fake news, de fausses informations, d'accusations infondées, inventant des chiffres. Et donc, je lui ai envoyé à lui et à la commission les bonnes informations et les bons chiffres, avec des documents officiels, en lui demandant donc de me présenter des excuses publiques, puisque maintenant il savait que tout ça était faux. J'attends toujours ces excuses publiques. Oui, d'ailleurs, non seulement il n'a pas présenté d'excuses publiques, mais Sugar a raison, lors de la dernière audition de la présidente de France Télévisions qui est revenue pour la dernière audition de cette commission, il a réitéré ses fausses accusations. Ce qui a été d'ailleurs dénoncé par le président de la commission qui a dit « mais c'est pas possible, vous avez les chiffres, vous avez les bons chiffres maintenant, et vous continuez à mentir ». Ils sont un peu pris le bec tous les deux sur le sujet. Peut-être que ces excuses seront dans le rapport, dit Defecator. Peut-il être pénalisé de mettre des fausses informations dans le rapport? S'il est poursuivi en justice par les personnes concernées, oui, bien sûr. Mais seulement s'il est poursuivi, si des personnes portent plainte. Est-ce que tu verrais avec son rapport? Je sais pas. J'ai tellement envie de faire autre chose. Mais on a passé déjà beaucoup de temps hein, sur. C'est à côté beaucoup d'importance à la personne dont nous parlons là. Pages en React, oh, ça se mange bien. Un journal, c'est une cinquantaine de pages. Hein. Est-ce que tu porteras plainte s'il met de fausses informations à ton encontre dans son rapport? Je crois que le contenu de ce rapport doit être protégé par l'immunité parlementaire. Je ne crois pas que les propos en tant que parlementaire puissent être visés par ce type de plainte. Je ne crois pas, non. Ce sont les propos en dehors de ce cadre du travail parlementaire qui peuvent éventuellement, mais c'est très très rare, des élus poursuivis et condamnés pour diffamation, c'est rarissime. Parce que justement, il y a la protection, il y a l'immunité. Je crois pas que ce soit très pertinent. D'ailleurs, Nagui n'a pas porté plainte pour diffamation. Il a porté plainte pour cyberharcèlement, visant les milliers de tweets de personnes inspirées par les propos et parfois les tweets du rapporteur, le visant. Voilà. Je pense que c'est pour ça que Nagui n'a pas porté plainte pour diffamation. Je crois qu'il a porté plainte pour cyberharcèlement. Parce que pour diffamation, ça n'a pas beaucoup de sens contre un élu. En fait, la parole politique, et c'est une bonne chose, est protégée. Mais on aura l'occasion d'en reparler. On verra d'abord lundi ce qui va se passer. On verra lundi ce qui va se passer. On verra quel est le contenu de ce rapport. Alors, est-ce que ce rapport va être voté? S'il est voté, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Est-ce qu'on en reparlera ici? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura sûrement des articles à partir de lundi, mardi, mercredi sur le sujet. Dans les bonnes feuilles. Il y a des gens qui vont nous faire des petits digests, des petits résumés des 300 pages. Et puis après, on verra si ce qu'on en fera nous ici, quoi. Et quelles sont les suites à donner à cette affaire? Mais quand il le tweet, est-ce que l'immunité est toujours valable? Non. Non, justement, non. Ça, c'est autre chose, ça. C'est bien pour ça que Nagui porte plainte pour cyberharcèlement et pas diffamation. Ah ben non, quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Là, effectivement, il y a un sujet. Allez, je me fais un petit café parce que tout à l'heure, j'avais lancé un petit café et puis je ne l'ai pas fait. Voilà, on va parler de. Alors, c'est un truc qui me semble vraiment. Premier degré, vraiment intéressant. Alors, j'espère qu'il va en sortir quelque chose de bien parce qu'il faut voir l'application. C'est l'alliance stratégique entre France Télévisions et YouTube. Voilà. Et puis après, on parle de Paul Sexa, ce cycliste qui fait rêver tous les fans de cyclisme français, là. Avec ce jeune homme-là qui est en train de. D'impressionner tout le monde. Hein, bougez pas, je me fais un petit décart. J'en ai pour 30 secondes. Très heureux de vous avoir trouvé avec de la bonne co. Et on fait ces deux derniers sujets. Ok? Bougez pas. C'est parti, à couler. Un décart? Bah non, parce que j'ai du boulot après. On va l'entendre se déclencher à distance là. Le DK, c'est pas bon 22h, bien sûr. Grognasse, pseudo étonnant. Non, a priori pas de Zilane pour moi cette année. Et attention, café au lait. Hein. Et attention, mesdames et messieurs, café au lait. Ah. Je comprends pas, je viens d'aller voir sur YouTube, il y a déjà des chaînes publiques et leur programme, c'est quoi qui change? Ben justement, on va comprendre. Vous êtes très fort. Tu as raison, il y a déjà des choses de France Télévisions sur YouTube. Voilà. Mais ça va changer un petit peu. Enfin, ça va changer. On va voir si ça va changer. Il y a des annonces, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, une alliance stratégique entre France Télévisions et YouTube. Il n'y a pas longtemps, les dirigeants de France Télévisions ont fait des annonces pour dire il va y avoir une révolution à France Télévisions, une révolution numérique, ils ont appelé ça la révolution du streaming, où désormais ça va être streaming first, avec un chiffre évoqué par la présidente qui m'avait impressionné, qui disait désormais deux tiers des salariés de France Télévisions vont être tournés vers le numérique, vers le streaming first. J'avais trouvé ça tellement énorme que j'étais un peu sceptique en disant c'est très beau ces annonces, ce chiffre-là, mais concrètement, quelles sont les mesures, quelles sont les décisions. Et dans ce discours, dans cette interview, à l'époque, la présidente ne disait pas justement quelles seraient les mesures. Et du coup, je m'étais montré un peu sceptique. Et là, eh ben justement, il y a une première annonce. Le groupe public franchit un cap en s'alliant à la plateforme, donc YouTube, pour diffuser ses contenus d'information. Un partenariat qui marque une nouvelle étape dans la transformation numérique de France Télévisions. C'est une petite révolution dans l'écosystème médiatique, écrivent les Échos. France Télévisions s'allie avec l'ennemi d'antan, YouTube, le géant américain et le groupe audiovisuel public français viennent de conclure un partenariat prévoyant la mise à disposition de l'intégralité. Alors de quoi ? De quoi ? Des éditions d'information de France Télévisions sur la plateforme avant l'été. Donc c'est l'info. Pour l'instant, on parle de l'info. JT, magazine d'actu, émission d'investigation, hein, les compléments d'enquête, les envoyés spéciaux, etc. France 2, France 3, France 5, France Info seront accessibles sur YouTube soit en simultané, donc instant, soit quelques heures après. Et déjà, c'est pas la même chose. Donc là, petit flou. Est-ce que c'est en même temps sur YouTube et sur France Télévisions, ou est-ce que c'est quelques heures après ? Parce que déjà, c'est pas la même chose. Ce sont au total près de 20 000 heures de programmes par an, éditorialisés avec les codes de YouTube, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Deuxième annonce. Alors ça, c'est un peu flou aussi. C'est intéressant, mais... Donc on envoie du JT, on envoie de l'émission d'investigation. Voilà. Mais éditorialisé avec les codes de YouTube, ça veut dire quoi ? Ça, c'est pas très clair. C'est pas très clair. C'est-à-dire que le JT, il va pas être éditorialisé avec les codes de YouTube. Envoyé spécial, il va pas y avoir un nouvel envoyé spécial. Des capsules peut-être, tu crois ? Ah, ou alors des capsules, hein, pas mal. Alors c'est remonté, c'est coupé, c'est comme quand moi je mets un extrait de la revue de presse sur YouTube par exemple. Ah, des shorts par exemple. Ah, ok. Sugar me dit, je vois la BBC News qui fait ça. Ah, ok. C'est peut-être ça. Donc, éditorialisé avec les codes de YouTube beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais la proportion n'est pas précisée. Donc en gros, si je comprends bien, et prends un peu de recul, c'est une partie des contenus d'info, mais pas tout, qui irait sur YouTube instant ou quelques heures après, voilà, dans l'intégralité ou peut-être en mode capsule. France Télévisions est dans une logique de streaming first, souligne Stéphane Sidbon, directeur des programmes du groupe, c'est le numéro 2 de France Télévisions, une façon de considérer YouTube comme une extension de la télévision, comme l'a fait la BBC, citée par le Sugar à l'instant dans le chat. YouTube est devenu un point de contact majeur, notamment vis-à-vis des jeunes. Bon, ça, le constat, très bonne question de Astia La Vista, est-ce que ce sera monétisé ? On en parle dans un instant. On n'est pas prisonnier d'un mode de diffusion, pour nous, c'est la qualité des contenus qui prime, et pas qui prime. Continuons. Il y a encore beaucoup de flou. Hein. Delphine Arnault l'avait évoqué lors de son audition. Elle l'avait évoqué beaucoup plus tôt que ça dans une interview avant l'audition, mais effectivement, elle l'avait redit. Parallèlement, France Télévisions prévoit des contenus originaux et natifs spécialement conçus pour la plateforme. Des podcasts vidéo pour l'essentiel, donc attention. Là, ce n'est plus les programmes d'info actuellement de France Télévisions qui seront diffusés sur YouTube dans l'intégralité ou sous forme de capsule, c'est des programmes natifs. Contenus originaux et natifs spécialement conçus pour la plateforme, des podcasts vidéo avec des visages de l'antenne ou des streamers, donc des visages actuels de l'antenne, qui feraient des programmes pour YouTube siglés France Télévisions ou des streamers. Alors, quel visage de l'antenne ? On sait qu'Élise Lucet, par exemple, elle est déjà sur YouTube avec Envoyé Spécial. Il y a aussi une animatrice de... pas d'infos, mais des missions d'accueil un peu, là. Ah comment elle s'appelle, l'animatrice, là ? Non, pas Rivenzi, c'est un garçon, lui. Oui, qui a reçu Zera, voilà, elle. Qui est sur YouTube aussi. Non, pas Babette, non. Faustine Bollard. Voilà, donc des visages de l'antenne, il y en a déjà, est-ce qu'il y en aura d'autres ? Voilà. Et des streamers. Ajoute le dirigeant sans donner davantage de précision. Alors, quel streamer ? On sait qu'il y a déjà des gens dans le stream actuel français qui ont collaboré à un moment ou à un autre avec France Télévisions. Rivenzi pour les JO, pour Roland Garros aussi. Il y a eu, Zach Nani pour les derniers JO. Il y a eu Zerator dans le cadre de Boat. Il y a eu, j'en oublie peut-être. Voilà. Du Poney Club. Ouais. Aussi. Voilà. Moi, oui et non. Parce que moi, quand j'ai collaboré avec France Télévisions, j'étais salarié de France Télévisions. Donc, je n'étais pas un streamer qui collaborait avec France Télévisions. J'étais un salarié de France Télévisions à qui France Télévisions demandait de l'accompagner sur des streams, ce que j'ai pu faire notamment à l'époque de la crise sanitaire ou de la dernière présidentielle. Mais c'était plus un salarié qui accompagnait France Télévisions sur le sujet qu'un streamer extérieur qui venait collaborer, quoi. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais merci de penser à moi. Les revues de presse en partenariat avec France Télé ? Non. Tortue me demande, est-ce qu'on fera les revues de presse en partenariat avec France Télé ? Non. Non. Marie Palot intervient dans Télématin, c'est vrai. Après, Marie, elle stream plus, hein. Trop. Mais oui, créatrice de contenu, Marie Palot. Je viens d'arriver. Désolé si la question a été posée. Est-ce que tu as été contacté à ce sujet pour donner du conseil ou un peu d'insight sur comment approcher l'affaire ? Non. Le nom de certains Samuel tourne en coulisses ? Non. Tu vas déposer ta candidature ? Non. D'autres questions ? Un Little Big Whale pour du tennis. Alors, je sais que Trivia a collaboré avec la Fédération française de tennis pour des lives à Roland-Garros. Je ne suis pas sûr que ce soit fait dans le cadre de France Télévisions, là. J'ai un doute. Ouais. Continuons. Parallèlement, donc ça, on en a parlé. Alors, l'article nous dit, ce n'est pas le premier partenariat de ce type dans l'Hexagone, puisqu'en début d'année, CMA Média, donc CMA Média, c'est, vous savez, c'est CMA, CGM, l'énorme entreprise là, de conteneurs, voilà, mais qui a aussi une branche médiatique, a signé un accord avec YouTube, mais le volume était beaucoup plus limité. À Fretter, exactement. À raison de 1000 heures par an. Donc, il y a déjà un exemple, mais là, on voit qu'il y a un nouveau truc en termes de volume, de dimension. C'est vraiment une première. Autre origine, même s'il est un peu flou pour l'instant. Parce qu'en fait, moi j'adore hein, ces annonces, hein, je trouve ça formidable, parce que c'est comme le dit Cid Bon Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, il y a quelques mois, la télévision est en train de crever. Voilà. Qu'on le veuille ou non, voilà, un rythme qui est assez lent, mais la télé est en train de crever. C'est-à-dire les jeunes ne regardent plus la télé, pour ceux qui l'ont déjà regardé, ils ne reviennent pas à la télévision, les vieux, entre guillemets, la regardent de moins en moins aussi, et se déportent de plus en plus sur YouTube, etc. L'âge moyen des téléspectateurs est en train de s'élever, les marchés publicitaires s'en vont, voilà. Donc la télé est en train de crever. C'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane Zidmond Gomez, qui est numéro 2 de France Télévisions. Ce qui est intéressant, c'est que là, au-delà du constat, c'est ça se bouge. Mais pour faire quoi ? C'est là où pour l'instant c'est imprécis. Quand on dit il y a des programmes qui vont aller sur YouTube, ok, lesquels précisément ? Il y a des visages de France Télévisions qui vont aller sur YouTube, ok, mais lesquels ? Pour faire quoi ? Est-ce que c'est diffuser la même chose ? Est-ce que c'est d'autres écritures, d'autres formats ? On ne sait pas. Il y a des streamers qui vont s'associer à tout ça, ok, lesquels ? Le diable est dans les détails. Moi j'aime bien ces annonces, je trouve ça témoigne d'une prise de conscience. Mais après, on veut savoir quoi. Autre originalité de ce constat, quelqu'un me parlait de la monétisation, très important, parce qu'un des trucs qui a freiné le basculement des médias traditionnels vers les nouvelles plateformes, c'est la monétisation. Eh oui. Autre originalité de ce constat, ce contrat public-privé, c'est France Télévisions qui va commercialiser directement ses inventaires publicitaires sur la plateforme. Alors, je ne sais pas ce que c'est inventaire publicitaire, mais je crois comprendre que la pub de France Télé sur YouTube va être gérée par France Télé. Or, France Télé a une excellente régie pub. Voilà. C'était important pour nous de ne pas se faire dicter des règles, et d'ailleurs c'est l'une des décisions pour lesquelles le contrat a pris du temps à se conclure, mais on va être l'un des rares groupes dans le monde à avoir cette possibilité de gérer notre publicité. Donc France Télévisions va gérer sa pub sur YouTube, moyennant une commission bien sûr. Mais ça c'est très intéressant. Guyane me dit c'est mon métier, inventaire publicitaire, c'est espace pub à vendre. Ok, donc on avait pas mal compris, merci à toi. Sugar me dit dans le communiqué, c'est indiqué France Télé Publicité commercialisa directement ses inventaires sur la plateforme avec une agilité de pilotage permettant d'optimiser la valorisation du catalogue. Ça, c'est très intéressant et c'est malin. Il va de fait pouvoir proposer aux annonceurs une stratégie multiplateforme. Donc, désormais, aux marques, France Télé va pouvoir dire allez, on vous diffuse le spot sur France 2, sur France 5, sur France Info et sur YouTube. Donc stratégie multiplateforme, et versera une commission fixe à YouTube qui n'a pas été communiquée. Bon, ça c'est le problème. Vous voyez, ça c'est une question qui aurait pu être posée, mais qui n'a pas été posée par le rapporteur. Parfois, il y a des chiffres qu'on aimerait les connaître. Là, par exemple, on ne sait pas quelle est la commission versée par France Télévisions à YouTube pour ça. La présidence de France Télévisions s'est vantée à plusieurs reprises d'avoir diffusé le GP Explorer sur France Télévisions de Squeezie. On n'a jamais connu le prix, le montant du chèque. Jamais. Ça, pour le coup, c'est intéressant parce qu'on est vraiment justement sur les nouveaux partenariats, sur ces défis qui se posent aux médias traditionnels. Comment tout ça est monétisé? Comment c'est financé? Combien ça paye? On ne sait pas. Ça, c'est une question qui peut être intéressante, mais pour ça, il fallait travailler un petit peu. Voilà. 20K, tortue, 20 000 euros. Le GP Explorer. À ce prix-là, moi, je l'achète. Non, je pense que c'est plus. 20K. Ah non, mais 20K, j'achète, moi. Ah, même pas, 20 euros. Ah, c'était une vanne, putain. Parce qu'à 20K, je prends, moi, je diffuse le GP Explorer. Et on ferait un react. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a cherché l'info, on n'a jamais connu le montant du chèque payé par France Télévisions pour acheter le GP Explorer. Jamais. Dommage, ça aurait été une question intéressante. Et là, c'est pareil, on ne sait pas combien France Télévisions va verser à YouTube. La société dirigée par Delphine Arnaud s'est donnée pour objectif une progression de 50% de la publicité numérique en 2026, parce que c'est hyper intéressant et malin ce qu'est en train de faire France Télévisions s'ils y arrivent. Non seulement ils vont aller toucher de nouveaux publics, non seulement ils vont aller vers les plateformes où désormais les gens sont, mais en plus, ils accèdent à un marché publicitaire. C'est pour ça que j'aimerais savoir comment se partage le gâteau et quelle commission prend YouTube. Vous voyez, ça, c'est des questions qui auraient été intéressantes à poser, mais bon, c'est trop tard. Si l'info est le premier genre à venir massivement sur YouTube, on ne s'interdit rien pour la suite, dit encore Stéphane Sidbon. La seule limite sera budgétaire compte tenu des investissements nécessaires dans les formats natifs. Donc, ils veulent investir. Mais c'est bien de dire qu'on veut investir, c'est bien de dire qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Il faut quand même, voilà, il faut, après maintenant il faut voir ce qui va être fait et on jugera sur pièce bien sûr. La confiance dans l'info est une différenciation du service public, c'est une info de qualité, c'est vrai. Il est de notre responsabilité d'aller chercher notre public là où il est et lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux, poursuit-il. Très bien. Pour YouTube aussi, il y a un enjeu de légitimité en exposant le jeune public très friand de la plateforme. Ça c'est un peu faux. Le public de YouTube, c'est plus que le jeune public maintenant. Il y a des gens au-delà de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qui consomment du YouTube tous les jours. Jeune public et YouTube, c'est plus tout à fait vrai, si je puis me permettre. Mais en tout cas, en exposant ce public très friand de la plateforme à du contenu d'information de qualité. Donc, c'est davantage de contenu de qualité aussi sur YouTube. Pour nous, France Télévisions, c'est l'excellence du contenu, déclare Justine Rist, qui est patronne justement de YouTube France. Ce deal illustre quoi? Le fait que plus personne ne peut vraiment snober YouTube et ses 43 millions d'utilisateurs mensuels en France, alors que le groupe appartient à Google, est régulièrement vu comme un concurrent, il est aussi de plus en plus un partenaire. Il y a un peu moins d'une décennie, Delphine Arnaud, n'hésitez pas à critiquer pourtant vertement YouTube, ça a changé. Hein. En public, annonçant l'arrêt de la mise à disposition des œuvres intégrales sur la plateforme, même si la position s'est infléchie, France Télévisions utilisait jusqu'à présent surtout YouTube pour ses visées promotionnelles et les émissions étaient souvent vieilles quand elles étaient postées. C'est ça qui va changer. Les temps ont changé. les diffuseurs traditionnels multiplient les passerelles avec YouTube, qui s'était présenté il y a quelques mois comme la première chaîne de France et grignote du temps d'attention. En outre, nombre de nouveaux talents émergent sur celle-ci avant d'aller sur l'écran du salon, comme en témoigne la toute jeune récente acquisition d'un jeu créé par Squeezie, l'histoire du train là, par le géant de la production audiovisuelle Banijay. Ouais, cette phrase elle est un peu... Ouais. Nombre de nouveaux talents émergent sur YouTube avant d'aller sur l'écran du talon. Le nombre de YouTubeurs qui vont à la télé, voire même qui rêvent de faire la télé, sauf erreur de ma part, il n'y en a pas tant que ça, mais bon. De son côté, France Télévisions a aussi fait évoluer sa stratégie. Depuis plusieurs années, les chaînes linéaires n'ont plus la priorité. Le groupe public a conclu un partenariat avec Amazon Prime, puis a engagé une vaste réorganisation cette année pour accélérer dans le numérique. On est désormais un éditeur sur toutes les plateformes. Doit-on s'attendre maintenant à voir TF1 et M6 emboîter le pas de France Télévisions ? Ça, c'est la chute de l'article est super intéressante. Pour eux, les contraintes économiques sont différentes avec une dépendance forte à la publicité. Voilà. Et à écouter leurs états-majors, YouTube n'offre pas encore de revenus suffisants pour financer le coût de leur programme. C'est là où France Télévisions, qui est financée en majorité par de l'argent public, une liberté peut-être que dont c'est intéressant, peut-être même une forme d'agilité que n'a pas TF1 et M6. Babar Levert me dit TF1 et M6 veulent rediriger sur leur plateforme bourrée de pubs. Ouais, mais sauf que le public, et notamment le jeune public, il veut pas. Il y a un truc. Moi, dans l'intention, dans la philosophie, il y a un truc à France Télévisions qui montrerait que ça bouge. Mais très bonne question, Sugar. Vous êtes plusieurs à en avoir parlé. Je vais relever cette question dans un instant. Mais est-ce que ça va marcher? Quels choix vont être faits? Quel programme? Quel format? Quelle écriture? Quelles incarnations? En la matière, les grandes idées, c'est très bien. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la réalisation. Voilà. Vous n'allez pas avoir un grand. Vous n'allez pas aller voir un programme parce que vous trouvez que la philosophie derrière, elle est top. Vous allez voir un programme parce qu'il vous plaît. Voilà, c'est ça la question. Sugar disait, par contre, ça va tuer France.tv. Quid de la plateforme France.tv si France Télévisions poste en masse leur programme sur YouTube? Très bonne question. L'article n'en parle pas. Puis pardon, sous une vidéo YouTube, il y a une liberté d'expression qui permet aux abonnés de dire ce qu'ils pensent d'un programme. Comment ils vont gérer ça? Est-ce que cette liberté, est-ce que ça leur va, quoi? Il n'y aura pas de pub YouTube, du coup, à voir, à Quartia. A priori, non. Mais du coup, il y aura... France Télévisions va devoir filer de l'argent à YouTube, bien sûr, parce qu'il y a un manque à gagner, là. Hein, c'est la commission fixe dont parlait l'article. La plupart des émissions vont sûrement juste désactiver les commentaires. Ah ouais, mais ça, c'est naze. Bah, ça fait partie du truc, non? Ils peuvent juste désactiver les commentaires par défaut. Mais quand tu regardes une vidéo YouTube, est-ce que tu n'es pas intéressé par les réactions de ceux qui regardent en même temps que toi? Je sais pas. Est-ce que ça fait pas partie du truc? Sugar, non? Toi, tu vas pas voir les commentaires des gens sur la vidéo? Est-ce que vous regardez, vous, les commentaires sous les vidéos, ou est-ce que ça vous intéresse pas? Je m'en fous, dit Kernel. Pas vraiment, me dit Seiko. Jamais, me dit Osis. Non. Voilà. C'est un truc de créateur de regarder les commentaires. Ah, c'est hyper intéressant. Vous êtes très nombreux à dire que vous regardez pas, quoi. Donc c'est pas très grave s'ils enlèvent les commentaires. C'est hyper intéressant. Très intéressant. Quand la vidéo m'a vraiment plu, me dit Akiel. Quand j'aime bien la vidéo, me dit Sleepy. Toujours, me dit Pilboro. Ok. Sur les vidéos polémiques, je regarde davantage. Tout dépend de la vidéo. Ok. C'est très intéressant. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de France Télévisions? Moi, à titre personnel, je la trouve pertinente, intéressante, intelligente, je dirais même. Après, il faut voir la réalisation. Voilà. Et ça, c'est le plus difficile. Il faut voir aussi comment les salariés de France Télévisions vont s'emparer de ça, s'ils vont accepter de le faire, est-ce qu'ils vont aimer le faire, comment ils vont le faire. Kernel dit que ce n'est pas très clair pour l'instant. Voilà. Bonne idée à voir la réalisation, me dit Benoît. Ça dépend du... ouais. Très bon move, me dit à mon slip. À voir ce que ça donne, mais je suis un peu mitigé, me dit Marshmallow. Ils se plient au marché de façon, me dit Tortue à chaise, ils n'ont pas le choix. Ils sont dans leur temps, c'est pas trop mal dans l'idée. Je mets un commentaire pour sauvegarder le commentaire. Merci Marco Iolo. Je pense qu'ils ont un train de retard. Mais pas du tout. La vidéo du train de Squeezie vient d'être achetée par Banijay. Excellent. Attends, des blagues de daron, j'ai vraiment un humour de plus en plus pourri, quoi. Ils ont 10 ans de retard sur le sujet, estime MMG. À quel bénéfice financier feront-ils? Ah ben, si la régie pub de Français se met dans le truc, il y a un monde où ils font des sous. Hein. Est-ce qu'ils vont profiter pour créer une interaction avec leurs téléspectateurs via YouTube? À voir. Moins sûr. On ne peut que se féliciter que notre service public se tourne vers une plateforme qui parle à des plus jeunes, dit Doc Tyson.
Intéressant.
Tyson. Alors, comme dit Sugar, ils ont 10 ans de retard, mais ils opèrent le move avant leurs concurrents. Et vous êtes très nombreux depuis tout à l'heure à dire que Arte est un exemple en la matière. Ok. Bon, on finit avec du sport ? C'est quoi le move exactement ? C'est une alliance avec YouTube, de francision avec YouTube. Monsieur Paul. Alors, de quoi s'agit-il ? Ben, de ce cycliste qui fait rêver. Les amateurs de cyclisme. C'est un Français. Il est tout jeune. Et il roule fort. Très très fort. Voilà. Il s'appelle Paul Sexas. Ah, un Lyonnais me dit, Camille, l'étoile montante du vélo français. Voilà. Donc là, c'est juste une capture d'écran. On va aller chercher l'article du Huffington Post. Donc je tape Huff Post et Sexas. Huff Post. Ça vient d'où Sexas ? C'est quelle région à votre avis ? Alors on me dit Lyon, mais c'est le patronyme. Basque peut-être, Sugar, me dit Sugar. Ah, vous êtes plusieurs à dire basque. Ok. Ah, d'autres disent Portugal. Ah, Yélès me dit origine portugaise. Ah, bon, basque-portugais. Bon, bah c'est pareil. Non, c'est sud-ouest. Ok. Ça match. Hein, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, tous citoyens du monde. Peu importe. Moi, ça fait des semaines que je surveille. Comment ça, c'est pas pareil? Bah, si, c'est pareil. Le bon article là-dessus. Pourquoi? Parce que je tombe sur plein d'articles, mais un peu spécialistes, tu vois, un peu genre l'équipe, les gars qui faites pas attention à la pub. On est sur le HuffPost, c'est un site d'internet gratuit. Ouais, donc, ils se financent par la pub. Faites comme moi, regardez pas les pubs. Il faut bien qu'ils puissent bouffer. Ah, ta gueule, toi! Alors, tu penses que c'est pour nous? Ah putain, les pubs de merde! Faites comme moi, faites pas attention et ne vous en avez pas. Voilà, ça marche pas avec abonnement, donc il faut bien qu'ils mettent des trucs. Mais c'est un bon site d'info. Oh putain, c'est pas possible cette pub. Il y en a de partout. J'en peux plus. Mais c'est un très bon site. Non mais quoi, il y a des pubs de partout quoi. Et donc, ça fait des semaines que je cherchais un article qui me parle de Sexas, mais genre Sexas expliqué au nul. Hein. Il y a sûrement un livre qui s'appelle Le sexe expliqué au nul. Et ben là, moi je voulais un article sur Sexas expliqué au nul, pas l'article de l'équipe de ce matin qui dit waouh, lyrique, plein d'élan, disons, avec des mots un peu de fou. Non, pas un article de spécialiste pour les spécialistes. Non, un mec qui me dit ok, tu connais pas Paul Sexas? Et ben moi je vais t'expliquer Paul Sexas. Et ben j'ai trouvé cet article. Je parle de Sexas, hein, pas de sexe. Donc dans le HuffPost, site d'info de qualité, néanmoins avec beaucoup de pubs. Paul Sexas, le Français qui fait rêver ou trembler le cyclisme mondial du haut de ses 19 ans. Le gars, il a 19 ans. C'est un monstre de précocité. Premier Français à remporter une course par étape. Ah ben non, je suis pas sur le bon truc. Depuis 19 ans. Par étape du World Tour. Depuis 19 ans. 19 ans ! Vainqueur de la Flèche Wallonne, qui est une classique, c'est ça ? Le coureur de Décathlon CMA-CGM est un véritable crack. Voilà. Depuis le début de l'année 2026, il est le cycliste qui a le plus gagné dans le peloton mondial. Voilà, merci le HuffPost. Voilà. Sexas expliqué au nul comme moi. Avec ses aptitudes physiques hors normes et ses talents de leader, il peut rêver très grand sur le Tour de France peut-être dès cet été. Certains disent, mais il est fou de s'aligner si tôt sur le Tour de France. D'autres disent, mais non, il faut qu'il y aille, ça va être monstrueux. Il a mis fin à une malédiction presque aussi vieille que lui le 11 avril dernier, au terme d'une ultime étape où il venait de faire preuve d'un panache fou. Paul Sexas a remporté le Tour du Pays Basque. Une première pour un cycliste français sur une course d'aussi haut niveau depuis juin 2007. 2007. Hein.
Combien ?
2007. Voilà. À ce moment-là, le Lyonnais n'avait que 9 mois. 19 ans plus tard, il est devenu un beau bébé d'1m86 qui fait saliver toute la planète vélo, excellent rouleur en solitaire, meilleur dans les montées que dans la quasi-totalité du plateau pro, excellent tacticien, leader charismatique, naturel, dispose de tous les atouts pour briller. Le mec, il sait tout faire. Sans doute même pour venir à bout d'une autre tragique série pour la France qui se cherche toujours un vainqueur du Tour de France depuis 1985.
Combien ?
1985, le dernier Tour de France remporté par un Français. Je sais pas si c'était Fignon ou Hinault, mais enfin bon, c'était par là, quoi. Enfin, c'est un peu comme l'Eurovision, quoi. Il paraît que la France, un jour, a gagné ce truc. C'était Hinault ? C'était le blaireau, voilà. C'était Bernard Hinault, le dernier. Bravo. Voilà. Donc, voilà, et en fait, on se prend à rêver, on se prend à rêver. C'est comme un Français qui gagne Roland-Garros, tu vois. Voilà. Et là, on se dit, mais est-ce qu'un Français va pas de nouveau gagner un Tour de France un jour, mais attendez, si on fait ça, les gars, mais la France explose, mais la croissance explose, hein. Là c'est parti pour 10% de croissance tous les ans, on se remet à consommer, on investit, tout le monde se met à bosser de fou, hein. c'est l'amour, c'est le printemps éternel, ça réarme de partout, ça fait des gosses, on veut tu en voilà, Paul Sexas, putain, mais donne-nous ce Tour de France, hein. Mais là, on va conquérir le monde. Hein. Tous les problèmes du pays disparaissent. Donc on en rêve. Non, en vrai, c'est énorme. Le garçon est prodigieux, pas forcément ultra dominant dans les catégories de jeunes. Il s'est très vite professionnalisé pour capitaliser sur un potentiel indéniable, un sommeil, alimentation, repos, plan d'entraînement. À l'âge d'entrée au lycée, il vivait déjà comme un coureur d'élite. C'est marrant, hein, c'est le mec qui est... Avec en plus un œil acéré pour traquer le moindre détail, chaque petite marche de progression, au point qu'un de ses encadrants chez les jeunes l'avait nommé Texas Instruments. Ça, j'ai connu ça. Du nom d'un célèbre fabricant de calculatrices. Moi, j'avais une TI, comme on disait, nous. J'avais une calculatrice qui faisait des formules, là. Je comprenais rien, ce truc-là. J'ai jamais rien compris comment ça marchait. Texas Instruments. C'est lui au milieu, là. Une Sexas Instrument, la TI-85 exactement, la TI-92 exactement, oh ça parle, vous l'avez. Ah j'ai connu ça. Puis au dos derrière j'avais planqué des formules, enfin bon peu importe. Un goût pour la perfection adossé à des aptitudes physiques hors normes qui n'a pas mis longtemps à transposer chez les grands. En 2025, pour ses premiers coups de pédale au milieu des professionnels, il s'immisce directement parmi les 10 premiers du Critérium du Dauphiné, l'une des courses d'une semaine les plus relevées du calendrier. Quelques semaines plus tard, après avoir empoché le Tour de l'Avenir, un mini Tour de France réservé aux moins de 23 ans, elle brille au championnat du monde, s'offre le bronze au championnat d'Europe derrière Pogacar et Evenepoel. Evenepoel, j'espère que je prononce bien. Et signe la 7e place du Tour de Lombardie, son premier monument cycliste. Surtout convaincu qu'un avenir radieux l'attend avec les succès ne manquons pas son palmarès, il s'autorise. Evenepoel, c'est ça ? Ça va ? C'est bien prononcé ? Evenepoel, ok. Comme événement, mais pour les poules. Ok, je l'ai. Il s'autorise à offrir une victoire d'étape à l'un de ses coéquipiers. Le gars était sur le point de gagner sa première victoire d'étape. Il est tellement sûr de lui, genre en mode, va y en avoir d'autres. Il a laissé sa place à son coéquipier. Vas-y, lève les bras. Sexas. Alors qu'il n'avait jamais gagné chez les pros. Sa première victoire pro, il l'a laissée à son coéquipier. Un côté magnanime, prêt à laisser sa place au collectif qui ne se dément pas depuis des années. Que ce soit pour faire briller ses copains ou pour les remercier de leur aide, il est prêt à mettre ses ambitions de côté, à sacrifier pour les autres. Toujours utile quand on aspire à être un leader qui aura besoin de ses coéquipiers. C'est beau ou c'est pas beau ? Moi je vous dis, si ce gamin-là, cet enfant, gagne le Tour de France, là, hein, on est parti pour les 30 glorieuses. Fini le chômage. Fini le problème de financement des retraites. Fini le problème de financement de l'éducation nationale. Fini la dette. Effacer la dette. Effacer la dette. Tous nos problèmes vont disparaître. Voilà. Vas-y, Paul. Moi, j'y crois. Alors, est-ce qu'il va faire le Tour de France cet été? Ça, je crois que c'est pas encore annoncé. Et Paul Sexas voit loin. Hein, cette année, désireux de passer un cap au plus vite, il a remporté son premier succès dès son deuxième jour de course sur le Tour de l'Algarve. Ah, tu t'emballes un petit peu, Samuel? Non. Non. Pas du tout. Son premier succès dès son deuxième jour de course sur le Tour de l'Algarve avant d'enchaîner. Il compte aujourd'hui 7 victoires en 2026. Le meilleur total d'un professionnel à égalité avec Evenepoel, dont vous m'avez parlé tout à l'heure, qu'il retrouvera dimanche, comme Pogacar d'ailleurs, pour la Liège-Bastogne-Liège. Donc dimanche, il y a du sexas. Dimanche, c'est sexas. Dimanche. Et même quand il ne gagne pas, il trouve le moyen de briller à l'image de son raid exceptionnel pour aller chercher début mars la deuxième place des Strade Bianche, derrière Pogacar. C'est qui ça? Qu'est-ce que j'ai comme vidéo là? Oh, la petite potière pour le raid qui fait plaisir! T'as rigolé pas, hein? Moi je connais pas du tout le vélo. Merci la petite potière pour ce.
C'est gagné, 25 mètres encore pour Paul Sexas.
À 19 ans.
Avec Mordin, champion qui s'impose sur la flèche wallonne.
Mais c'est incroyable. Voilà. Incroyable. Donc c'est lui, Paul Sexas. Voilà. Il est où l'article? Où est-ce que. Il est où l'article? Il est là. Preuve de l'intérêt qu'il suscite sur le site de référence en matière de cyclisme PCS. Voilà, il est dans le top 3 des coureurs les plus recherchés devant Wout van Aert, désolé pour la prononciation, Mathieu van der Poel ou Jonas Vingegaard. Place désormais déjà d'ailleurs à de nouveaux défis sur le site de son équipe Décathlon. CMA CGM, il affirme sa course préférée est le Tour de France. Mais donnez-nous le Tour de France, une montagne à laquelle il pourrait s'attaquer dès cet été. Il l'a encore prouvé ce mercredi, ce ne sont pas les ascensions qui lui font peur. Alors moi, je ne regarde pas trop le Tour de France, hein, je n'y connais rien, mais là je regarderai. Un gamin de 19 ans qui nous raconte cette histoire-là, c'est beau en vrai, non? C'est pour ça qu'on aime le sport. Vous en pensez quoi? Les pruneaux. C'est incroyable quand même. Ah, il faut une très grande équipe pour aller au Tour de France, il ne l'a pas encore. Ah. Merci H2O. Ah ouais. C'est comment il tient sur 3 semaines, dit Yeles aussi. Tu as vu la nouvelle couverture de Society? Non. C'est quoi la nouvelle couverture de Society? Fais voir. C'est beau, mais il est trop fort. Quoi? Ah non, c'est trop... non, non. Est-ce qu'il a fait ses preuves sur terre battue? Je n'ai pas d'infos là-dessus encore. Ah, il y a quelqu'un qui me fait une propale de jeu. Merci Doniaco, je vais aller voir. Fais voir. C'est pas raisonnable de l'envoyer cette année au Tour de France. Ah, c'est pour ça que les gens sont un peu sceptiques, me dit Vrodilch. Il faut monter l'équipe et qu'il prenne de l'assurance avant de gagner, pour le gagner quand il le fera avant. Ah. C'est que ça, c'est encore un peu jeune. Ok. MMG me dit, pour moi, c'est clairement un futur vainqueur du Tour de France. Décathlon met les moyens pour avoir une équipe au point. Il n'est pas si loin de l'avoir. J'attends son potentiel sur le Tour pour voir s'il est capable aujourd'hui de le battre à la régulière. Ils ont déjà une équipe très forte, même si, mais s'il va sur la Vuelta cette année, il gagne facilement. La Vuelta! Mais on a regardé, Josie, à Sienne, on a vu l'Italie. Alors attends. Remain so effective. Dans un instant, je vais aller voir un jeu. Ah oui, la Une de Society, alors. C'est quoi la Une de Society? La Une de Society. Attends, la Une de... Elle est où, la Une de Society? Faut que je la trouve. Quelqu'un me dit, t'as vu la Une de Society? Non, faut que je la voie. Il est où? Ils mettent ça où, leur PDF, là? Peut-être sur le compte... les réseaux sociaux? Ils ont toujours un compte X ou ils se sont barrés? Mon dernier post sur X, le réseau du Chétan, il date du 25 mars. Je dis ça, je dis rien. Euh... C'est quoi la une alors? Ah, je l'ai. C'est Villepin. Mais pourquoi ils n'ont pas mis la tête? C'est moi ou Dominique de Villepin à droite, à gauche, en haut, en bas, sur la route avec l'homme qui se rêve président. Mais ils l'ont fait exprès ou ils ont... Ah oui, ils ont coupé. Il n'y a pas la tête. Ils sont cons. J'adore. C'est drôle en vrai. C'est drôle en vrai. Ils n'ont pas mis la tête. Il est trop grand. Il est trop grand. Ça, c'est quoi ça? C'est un détournement, ça. C'est autre chose, ça. Bizarre. Oui, bon, éditorialisé, quoi. Le mec est grand, quoi. Ok, ok. Bon, désolé pour cette revue de presse un peu décousue, parce qu'on a eu des problèmes de connexion au début. Plus d'internet, plus de fibre. Un boîtier 4G qui n'était pas à la hauteur, ça laguait à mort. C'est intéressant, parce que je sais désormais que streamer avec un boîtier 4G ici, c'est insuffisant. Voilà. Je capte pas assez bien. Voilà. Heureusement, c'est revenu en cours. Je vais voir avec Mathieu, du coup, si on met le sujet sur... Tiens, je vais mettre fin de live. Hop. Tchouk. Si on met le sujet sur la livraison à domicile ou le sujet sur la pédophilie sur YouTube, ça va dépendre de la qualité. Fallait tester une fois exactement, MG, c'est ça qui est intéressant. Donc je saurai la prochaine fois que ça marche moyen quand même. La fibre est revenue, ouais. Juste avant, je crois, le sujet pédophilie. Voilà. Mais il y avait des choses intéressantes. Merci, Rubapapapapa. Klimovic utilise plusieurs boîtiers en même temps en tournée, il me semble. Oui, comme tous les streamers qui font de l'IRL. Ouais. Y compris nous, quand on fait des streams dans des musées ou en course à pied avec Joe, ou etc. Ah. Mais là, il faut pas un boîtier 4G. Et il faut l'agrégateur de connexion. Ah, ça, c'est Joe qui l'a. Parce que c'est un truc pour être dehors, ça. C'est pas un truc... voilà. Mais peut-être que je pourrais investir, ouais. Bon, après, des coupures de fibres. Ici, en 5 ans, j'ai dû en avoir 2. Donc, mais oui, mais c'est autre chose, ça. Puis ça marche quand ça veut, ça aussi. Un mille merci à la petite potière pour son raid, en vrai. Ouais. Le TVU, exactement. Alors, quelqu'un vient de me dépenser des points de chaîne pour que je découvre un nouveau jeu qui s'appelle... Est-ce que vous connaissez? On va aller voir. What Remains of Edith Finch. Ça vous parle ou pas? Un jeu indépendant d'aventure sorti en 2017. Deuxième réalisation d'un studio californien, Giant Sparrow. Très connu. Mon jeu préf ever. What? Alors je remercie la personne qui a dépensé ses points de chaîne. Le joueur incarne une petite fille de retour au pays natal alors qu'elle retourne à l'ancien manoir de sa famille dont elle est la dernière membre vivante. De pièce en pièce, elle se remémore les souvenirs associés au décès de chacun de ses proches dans un style interactif qui met l'accent sur la fantaisie, la suggestion et l'onirisme. L'onirisme. Pardon. C'est dire une bêtise. Inspiré par le réalisme magique et la weird fiction, cette direction artistique se révèle dans le jeu sous la forme d'une anthologie de mécaniques éclectiques. Ça a l'air super. Chaque personnage met en scène un procédé narratif et des types d'interactions vidéoludiques différents. Bien ou pas bien? Bien. Accueil critique unanimement favorable. La presse loue le caractère novateur et inédit de mécaniques de jeu qui exposent des sujets aussi délicats que la mort et le deuil. Quelqu'un me disait dans le chat, c'est Camille, on va encore pleurer?
Oui.
Et reçoit le titre de meilleur jeu de l'année au British Academy Game Awards. Il devient l'une des références du sous-genre vidéoludique du walking simulator, des œuvres proposant aux joueurs une jouabilité limitée de manière à renforcer de l'atmosphère et l'immersion dans l'intrigue. Mais j'adore! Ok, trailer, on le fait ce soir. On le fait ce soir. 2016, il y a 8 ans, What Remains. Ok, on le fait ce soir s'il me plaît. C'est bizarre, attendez, la DA est pas du tout sombre. Attends, on est au bord de la mer, un jeune couple, ça ressemble pas du tout à ce qu'on vient de lire. Je comprends pas trop, bizarre.
Mais qu'est-ce que vient faire la bagnole là-dedans? Qu'est-ce que vient faire la bagnole là-dedans? Et qui est pape? Et qui est pape?
5 millions d'élèves accompagnés et 30% moins cher qu'en auto-école traditionnelle? Il n'y a pas que votre enfant qui va être content.
Mais ça n'a Ornica, aucun rapport.
Première auto-école de France.
Ça n'a aucun rapport. Vous êtes prêts? C'est parti.
I'm sure my mom was just trying to protect me. Now that there's only one of us left, I thought it was time I heard the stories. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. But it had to end one way or another.
J'aime bien.
Vous êtes né à Clichy, vous êtes banquier.
Dans l'enchaînement, waouh, avec Pigasse, waouh. Quelle heure ce soir? Alors j'ai un peu de boulot cet après-midi, j'ai un truc à enregistrer. J'ai des, mais maintenant internet est réparé, je vais pouvoir bosser. Je sais pas, 20, enfin, alors je dis 20h, mais en ce moment, comme j'accompagne un peu le, Hélène et le petit le soir, j'arrive souvent un peu tard. Allez, 20h, 20h30, 21h max. Voilà. Est-ce que je l'ai sur Steam, sur ce truc? On va le télécharger direct. Hein. Voilà, on va le faire tout de suite. Steam. En plus, demain matin, je me lève tôt parce que je fais les analyses de sang à jeun. Oh là là, je déteste ça. Ne pas pouvoir me gaver de céréales le matin et de café au lait. C'est-à-dire, je vais lire les journaux sans manger. Voilà, je vais être d'une humeur massacrante. À jeun, mais tu seras jamais de retour à temps. Ouh, joli. Tu en as pour 3 heures d'une traite? Vous êtes con. Non, à jeun. Ah, putain. Ah, demain, je vais être d'une humeur massacrante. Bon, après, je mangerai après. Alors, j'en ai... Let's go. Go pâtisserie juste après meilleur moment, j'avoue. Prends des pruneaux. Ah, j'adore. Pourquoi j'ai une... Ah, ok. J'avais une version à 4,69€, mais c'est en fait, c'est le soundtrack, c'est la bande originale. Le jeu est à 18,49€. Attends, avant de charger le jeu, ta connexion est mauvaise. Non, je suis repassé en fibre. Bon, allez, je télécharge direct. Hein. Vous validez, hein? Je télécharge le jeu. Hein? Ça vaut tous ces centimes? Allez, je vous suis, je vous fais tellement confiance. C'est parti. Mise à jour. Mais non, je veux pas une mise à jour de PUBG, moi. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Mais non, pourquoi il me fait une mise à jour? J'adore PUBG, mais j'ai une mise à jour Steam en cours, ouais. Comment tu sais? Ah, on ressent le lag? Ok, alors je... Ok. C'est le PUBG qui est en train de se mettre à jour. Bon, je fais ça juste après le live, sinon vous allez me crier dessus. Ok, merci les amis pour ce matin, c'était super. Des bisous, je vais me chercher un truc à manger, je vais bosser un petit peu, j'ai un message enregistré, enfin j'ai des messages audio enregistrés, des trucs et tout. Merci pour votre patience quand il y avait des problèmes de connexion ce matin. Ah non, je me suis gouré le bouton là. Alors il est où le boubou? Il est là. Donc vraiment, voilà, ça n'arrive pas souvent. Hein. Ça n'arrive qu'une fois par an. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Voilà. Et on se retrouve ce soir a priori pour ce jeu. Et je remercie la personne qui a dépensé ses points de chaîne pour me faire découvrir ce jeu. Qui est en live? Qu'est-ce qui vient le... Ah ouais, tiens. Ah tiens.
Ça va être aussi un moyen pour nous de...
Ils sont sur quoi, là? Oh, sur le football, je comprends rien. Vous avez des envies, des envies? Des envies, des plaisirs de... Je vous envoie où? Je... Oh! C'est drôle, ça. Quoi? Attends. Quoi? Attendez. Il y a un gars que je suis. Il a un viewer. Il est à la pêche. Il est en train de pêcher. Il est à la pêche. Il est au bord. Il est au bord d'un cours d'eau. Je vois du ciel bleu. Je vois un arbre. Je vois une canne à pêche. Le mec a l'air cool. Le titre du stream, c'est « Discussion, bonne humeur, café ou thé ». Ok, on va là. Allez. Si je le suis, c'est qu'à un moment, je l'ai... Voilà. Quelqu'un me l'a conseillé ou quelqu'un me l'a recommandé. J'ai pas pu le raid. Voilà. On va à la pêche. C'est parti. Oh, il est en train de montrer un poisson, c'est incroyable. Ok. Ok, je lance. Il vient d'attraper un poisson. Il vient d'attraper un poisson. Il est en train de le montrer à la caméra. Demandez-lui de remontrer le poisson. Ok, je coupe. Des bisous. À ce soir. Je vous aime fort. Merci pour ce matin. C'était un plaisir. Demandez-lui de montrer le poisson. C'est incroyable.